je veux que tu me donnes le micro,
comme si tu m'interviewais, ça.
Non. Allez, vas-y. Vas-y.
Attends, c'est tous les trois ?
Ouais, tous les trois.
Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte ?
Non, mais t'es dans. T'imagines, t'es un journaliste professionnel. T'es dans un truc qui serait comme un salon, mais qu'on appellerait une convention, ou ça aurait été. Et tu trouverais un mec trop sexy dans la salle, tu vois, je lui donnais la parole. Fais ! Qu'est-ce que tu veux ?
Je sais pas, moi, t'es grand.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10h.
J'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Bon de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de Dieu. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.
Salut Kids et bienvenue dans En attendant Godard versus Le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B. Donc je suis Thomas de En attendant Godard et j'ai le plaisir d'être avec Étienne Cadoret du cinéma est mort. Bonsoir Étienne.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le cinéma est mort avec En attendant Godard malgré tout pour cette convention cinéphile, la numéro 7 si je dis pas de bêtises.
La numéro 6 Étienne, exactement, nous sommes ici au cinéma Harvard dans le cadre de la convention cinéphile organisée par l'association 97mm qui revient pour la troisième année à l'Harvard si je ne m'abuse. Et la joie de recueillir, d'accueillir le président directeur général de 47mm, Willy Cadoret.
Président dictateur à vie.
Alors, mon cher Willy, comment ça se passe cette convention cinéphile donc, qui réunit des éditeurs, des auteurs et des particuliers qui viennent vendre leur lessive?
Comment ça se passe?
Oui.
Ça se passe bien. Les gens sont contents, les gens sont heureux, les gens achètent du support physique. Les gens achètent des livres, les gens se font signer des livres par des auteurs.
Parce que ici, c'est, donc, comme tous les ans, il n'y a pas que des... auteurs et puis des éditeurs, il y a aussi des rencontres, il y a des jeux, il y a différentes projections avec les différents partenaires que vous avez pu avoir entre les différents éditeurs qui ressortent des films aussi en salle comme Carlotta par exemple. Comment est-ce que ça se passe les films, la sélection?
La sélection c'est un peu chasse gardée de cet individu, Antonin Moreau.
Qui est à nos côtés, bonsoir Antonin.
Salut les kids.
C'est un peu lui, là, on n'a pas notre mot à dire. C'est lui, il a dit, ça c'est bankable, on peut le passer, et ça c'est de la merde, on le passe
Antonin,
pas.
Antonin, c'est vrai?
Bah, c'est complètement vrai, là, j'ai juste mon moi commerçant qui décide de ce côté-là, pas du tout mon moi cinéphile. J'en ai rien à fiche de passer des films qui me plaisent ou pas. L'idée, c'est d'attirer le chaland pour qu'il puisse après claquer de l'argent chez les fameux éditeurs dont vous parliez.
C'est vrai que c'est bien quand on passe des films que les éditeurs ont en vente, comme ça, après, ils vont l'acheter.
C'est ça. Et puis là, bon, bah, évidemment, on essaie de faire le plus diversifié possible, même si on n'a pas non plus énormément de créneaux pour le faire. Là, il y a une surprésence, comme vous l'aurez noté, comme on me l'a déjà fait remarquer, de Carlotta, qui est quand même un éditeur qu'on cherchait, tu cherchais en tout cas venir depuis assez longtemps, parce que ça reste quand même l'acteur le plus important en cinéma de répertoire, en termes de volume en tout cas en France. Et là, il a à la fois une activité en salle, où on va présenter deux films, dont RRR quand même, donc là qui est quand même une grande exclusivité, et Entre le ciel et l'enfer, dont la projection va pas tarder à commencer. Et on est très content qu'ils viennent aussi, que le Big Boss vienne présenter ses éditions.
Alors Antonin, on n'est pas en direct, hein. C'est pas la peine de dire que ça va bientôt commencer. Tu sais, les gens, ça sera trop tard quand ils écouteront l'émission.
Mais c'est pas grave,
c'est le sentiment du direct.
Ils vont venir le faire chier dans la semaine pour lui dire que bah alors, c'est pas aujourd'hui la convention.
Alors du coup, pendant cette émission, merci Willy, pendant cette émission, on va faire un petit peu comme les précédentes années, c'est-à-dire qu'on va aller circuler dans tous les différents stands particuliers aux professionnels des différents éditeurs et auteurs présents et leur demander d'aller parler d'une édition ou d'un bouquin qui les apprécient particulièrement, pas du tout de leur propre soupe, mais justement de la soupe de leurs voisins.
Exactement, Antonin, nous allons déambuler pendant tout l'après-midi et vous allez pouvoir entendre des propos fort pertinents et judicieux de la part de tous ces professionnels de la profession. Merci encore, Willy.
Oh là là, mais c'est tout un plaisir.
Tiens, d'ailleurs, tu l'as vu, le dernier Aung San Suu ?
Night and Day, ouais.
J'étais un peu déçu, c'est dommage.
T'étais déçu ?
De quoi ?
Le dernier film de Aung San Suu.
T'étais déçu, pourquoi ?
Je trouvais ça un peu paresseux par rapport au dernier.
C'est quel film ?
Night and Day,
Aung San Suu. C'est un réal coréen.
Ouais, il doit avoir pas plus de, je sais pas, 1000 fans en France et encore.
Bon, il y a quelques centaines de en Corée, mais bon.
J'ai pas vu.
C'est vachement bien.
Ouais, c'est vraiment...
Sauf le dernier.
Non, mais par contre, Woman on the Beach, c'était super bien.
Ouais, j'avais beaucoup aimé, c'était un peu le renouveau après Compte de cinéma, qui était super chiant. J'ai aimé la première partie comédie, et puis la deuxième partie, c'était un peu plus chiant.
Je suis pas d'accord, c'est vachement bien les deux, jusqu'au bout.
Alors je suis avec Valentin, un nouveau venu à la convention cinéphile, parce que c'est aussi un nouvel éditeur de l'étage du dessous, un tout jeune éditeur, donc ça fait évidemment hyper plaisir de voir que c'est aussi un milieu où il y a toujours des gens qui se lancent. Et Valentin, il a décidé de nous parler d'une édition d'un de ses collègues de Extra Lucide Film, qui pour le coup, eux, Extra Lucide, ce sont des habitués de la convention. Alors Valentin, c'est à toi, de quoi tu vas nous parler ?
Oui, je vais vous parler aujourd'hui de The Sensority Row, donc une super édition de Extra Lucide. Alors je suis très 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 content d'en parler, puisque moi c'est vrai que j'aime beaucoup les petits slashers années 80 comme ça. Et ce qui m'a particulièrement plu chez ce film, que je ne connaissais pas, c'est le ton assez sérieux en fait du film, malgré le fait que ce soit quand même un film fun. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur vraiment de la grosse hémoglobine ou vraiment du film ultra trash. Moi j'aime bien quand ça reste quand même assez grand public dans l'horreur. Et là c'est le cas, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors c'est vrai qu'on est sur un revenge movie assez classique, hein, parce qu'on est sur le... On est vraiment sur un film où on va suivre une personne qui va se faire bizuter, hein, comme on a vu dans Terror Train, ou même un autre film de Extra Lucide, Le Jour des Fous, par exemple. Et c'est vrai que ça a été une bonne surprise. Et il est d'ailleurs vachement mieux, je trouve, que le remake. Il y a eu un remake, je crois que c'est fin 2000 ou début 2010, il me semble.
Avec le même titre ?
Ouais, ou Sorority Row, je crois juste. Ouais, c'est tout court, ouais. Qui m'avait assez déplu. Et c'est vrai que celui-ci, y a l'ambiance années 80, les effets en practical, la fameuse conclusion à la fin pour savoir qui est le tueur. Donc très bon point. En plus, il y a plein de bonus. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette édition et je la recommande. Voilà.
Merci beaucoup, Valentin.
Mais merci à vous.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non.
Alors, comment faites-vous pour choisir un film ?
Comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Vous êtes toujours dans Le Cinéma est mort et en attendant Godard à la conscience cinéphile au cinéma Arvor. Et nous avons le plaisir et la joie d'être avec Julien Pavageau, a.k.a. Monsieur Bobine.
Bonjour.
Salut Julien.
Bonjour.
Donc, Julien, toi, t'as sorti récemment un livre sur James Cameron,
oui.
À Sorte édition, mais tu es là pour nous parler de tout à fait autre chose. Tu vas nous parler de Archaeologist of the Westland, le documentaire de notre camarade Melvin Z sur le musée Mad Max 2 et les fouilles au compound. Alors, pourquoi ?
Parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Je ne l'ai pas vu. Il était passé avant une fois à l'absurde séance et c'était pile une journée où je n'étais pas là et j'étais un peu dégoûté. J'ai un pote qui avait pu y aller qui a dit « Ouais, c'est super, c'est extrêmement documenté ». Et j'étais biberonné à chaque fois qu'on s'intéresse à même au Ciné-Club de Monsieur Wynne, dès qu'on parle de George Miller, la Bible, en fait, c'est souvent le blog de Melvin. Hein, et bon, bah, l'énorme bouquin sur Mad Max et Mad Max 2, bientôt le 3. Donc, ouais, voilà, si vous voulez, une encyclopédie absolument ultra dense, en fait, sur George Miller, sur Mad Max, où il est interviewé le moindre figurant, récupéré le moindre boulon dans le sable, ce genre de choses. Voilà, intéressez-vous vraiment à ce qu'il fait, à ce que fait Melvin, même s'il tient des propos absolument intolérables sur James Cameron, je tiens à le souligner.
Pas que
je
James
condamne
Cameron, hein.
D'ailleurs, je condamne les violences, je condamne sa violence envers Cameron. Voilà, sachez que tout ce qu'il dit sur Cameron est complètement faux, mais par contre, c'est une sommité sur Miller et sur Mad Max.
Et son documentaire, Archaeologist of the Westland, on avait fait chacun une émission sur le film, je crois. Etienne, vous dans le cinéma est mort et nous dans En attendant Godard, donc sur les fouilles qui ont lieu dans le compound où on fait des fouilles à l'australienne, c'est-à-dire à coups de tractopelle pour essayer de retrouver des bouts de boulons rouillés d'il y a 40 ans. Effectivement, c'est un très beau documentaire avec notamment Max Aspin qui réglait les cascades sur le film et qui l'a en entretien alors qu'il est mort quelques années après le tournage du documentaire qui date déjà d'il y a une petite dizaine d'années quasiment, quoi. Un très beau film où Melvin avait rentabilisé le drone qui lui avait été offert. Et donc, tu voulais aussi nous parler, pour rester dans ton domaine d'expertise, on va dire, de James Cameron, Histoire de la science-fiction, qui est donc un livre sorti chez Mana Books et qui est plus ou moins basé sur la série documentaire qui était sortie il y a quelques années déjà.
Ouais, c'est une série d'entretiens qui a été... Il y a eu une série sur AMC. La série est intéressante, si vous voulez pas vous taper le bouquin, mais c'est des entretiens qui sont un peu hachés dans la série. Là, on a vraiment les entretiens par réalisateur. On va voir il y a Guillermo del Toro, George Lucas, Nolan, Spielberg, Schwarzenegger, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, c'est pas inintéressant.
Il y a Ridley Scott aussi, je crois.
L'entretien est très drôle de Ridley Scott d'ailleurs, par contre, dans la série. Parce qu'en fait, quand ils sont tous les deux face à face, on sent que Ridley Scott a une jalousie maladive, en fait. Et donc, James Cameron lui dit: ouais, j'adore ce que vous faites, je suis né avec Otsima. On voit Ridley Scott en train de tirer la tronche en face, vraiment, il est en train de ravaler sa langue, quoi. Pour dire: espèce de petit con, t'as pris mon film, t'as fait Alien, ça va.
Et c'est vrai.
Voilà.
Après, c'est vrai.
Non, c'est faux, c'est vachement bien Aliens. C'est mieux que Alien. Pardon.
Les propos polémiques commencent.
Ah oui, il y a du clash, attention, quoi. Mais puis, bon, il y avait aussi la jalousie maladive d'Avatar, qui, je pense, est à l'origine de Prometheus. Hein.
Ouais, bah, tant mieux, pour le coup, c'est bien cette émulation qu'il y a entre cinéastes.
Et ce qui est assez intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment tout... Cameron, c'est quelqu'un qui est né avec de la science-fiction, qui a lu énormément de bouquins de science-fiction. Et là, pour le coup, il y a tout son rapport à plusieurs imaginaires de la SF. Parce que globalement, c'est ce que dans son cinéma, il essaie de faire. Il se confronte à des imaginaires, et des imaginaires parfois très militaristes, très pro-guerre, très nationalistes, etc. Il parle assez peu de Robert Heinlein, par exemple, dans ce bouquin, mais bon, il en parle quand même un peu comme d'un libertarien dont il faut quand même se méfier un peu des idées.
Et puis comme quand même grand auteur de science-fiction américain.
Mais très grand auteur de SF et pilier, en fait, de tout un imaginaire.
Ouais, qui a été quand même hyper marquant. Comme auteur, donc même si c'est quand même un néo-nazi, tu peux pas tellement passer à côté.
Aliens, par exemple, et James Cameron le considère comme une adaptation de Starship Troopers. Et c'était juste avant la production il avait fait le Aliens Illustrated Screenplay, dans lequel il dit clairement, en fait, j'ai appris qu'ils vont faire un nouveau Starship Troopers, donc celui de Paul Verhoeven. Ils vont faire l'adaptation. Il dit: pourquoi j'ai déjà fait le film, en fait, ça s'appelle Aliens, quoi. Bon, il est un peu revenu là-dessus, il l'a pas trop dit très fort parce que voilà. Et Robert Heinlein, ça reste quand même très compliqué. Mais voilà, et t'as tout son rapport à la SF, aux thématiques. Bon, à la couverture, c'est lui en train de penser avec des petits rayons. Voilà, c'est James Cameron, toujours une grande modestie. Mais par contre, les entretiens sont assez intéressants, quoi. Même avec des types que j'apprécie pas spécialement, comme Christopher Nolan, ça reste quand même très très dense, très très riche. Et ça part vraiment dans des délires. Enfin, les mecs, ils sont en train de parler de leur rapport à la SF, de ce qu'ils adorent, des vaisseaux, des bidules. Et ils vont assez loin même dans leur rapport à la philosophie de ce que ça peut représenter, quoi. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Julien.
Ceci n'empêche pas que Piala soit parmi les plus grands, mais souvent les plus grands réalisateurs sont assez détestables dans le privé. Piala ou Godard, encore Godard, il est très bien quand on sait le prendre, mais c'est pas facile.
Il faut le prendre comment?
Oh bah non, ça je vais pas vous donner les recettes. Mais il faut le faire rire, je pense. Il faut ranimer son âme d'enfant. Parce qu'il y a une âme d'enfant en lui, et c'est très bon pour lui d'y revenir. Et souvent, les mauvais réalisateurs sont des partenaires des commensaux très agréables. Rob Grier, qui est à mon avis le plus mauvais des cinéastes, était un commensal formidable. Il fallait lutter pour se mettre à côté. Il y avait tant de bonnes histoires. Il a mis tout son génie dans sa vie et rien dans ses films. Godard, c'est un peu le contraire. Enfin, j'exagère, mais c'est ça. J'ai eu des rapports comme ça excellents avec de très mauvais réalisateurs comme Daquin ou Le Chanois ou Dreyville, hein, et qui étaient des copains formidables. On se tapait sur l'épaule, on se tutoyait.
Et personne n'a réussi les deux d'être à la fois.
C'est difficile, peut-être Renoir. Hein. Oui. Ça doit arriver, ça. Renoir, je pense que oui, même s'il était assez hypocrite. Enfin, il avait des principes un peu tordus, mais très efficaces. Ben, il y a le principe de, comme ça, où c'est la vie, où on est un être humain vivant, où on est un réalisateur. C'est difficile de cumuler les deux.
Toujours au cœur du volcan de la convention cinéphile, et cette fois-ci, on passe à un nouvel éditeur vidéo. C'est donc Guillaume des éditions Badlands, qui a décidé lui aussi de tricher et de ne parler d'une seule édition et d'un seul éditeur, mais de deux éditions chez deux éditeurs. Allez, vas-y Guillaume, c'est à toi.
Qui d'autre a triché?
Quasiment tout le monde. Il n'y a aucune morale dans cette convention. De toute façon, chez les cinéphiles, c'est courant.
Il n'y a pas de règle, oui. Oui, je voulais vous parler de Super Gun Lady, de Shusei Sone, qui est sorti chez donc, Le Chat qui Fume, qui est un pinku. Non, pas un pinku. Le pinku, c'est le genre de manière générale. Mais là, comme c'est la Nikatsu, c'est un roman porno. Et du coup, le roman porno, ça a été un peu défriché chez nous via Wildside, la collection roman porno. Et on connaissait qu'un seul type vraiment de roman porno avec les grands noms. Et Shusei Sone, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Et là, celui-ci, il est vraiment différent des autres. C'est même plutôt une sorte de polar. Alors après, on sait que dans le roman porno, souvent, on prenait des genres et il fallait juste que toutes les 10 minutes, il y a une petite scène de cul, et voilà. Et celui-ci, moi, il m'a surpris dès le début. Alors, je spoil rien, mais on a une séquence où on se croirait dans un film de d'Ozu, une séquence familiale, tout ce qu'il y a de plus normal, et il y a quelque chose qui vient interrompre ça de manière totalement abrupte, et ça donne direct le ton, et on se dit, mince, dans quoi je vais tomber? Et en fait, c'est ça met en scène deux flics. Et donc, il y en a une qui va malheureusement se faire un peu capturer et séquestrer, qu'on va droguer de force et abuser, évidemment, parce que sinon, on n'est pas dans le roman porno. mais il y a quand même un petit peu, une rupture de ton. Mais ce qui est bien, c'est que c'est là, contrairement à d'autres romans porno, celui-ci, il est tourné en décor naturel. Donc, je crois même, il faudra voir les bonus de Clément Roger, parce que je crois que c'est Clément qui fait les bonus, où il explique que ça a été tourné près des anciens locaux, je crois, de la Nikatsu, ou qui ont été détruits, donc ils utilisent ce décor. Donc ça apporte vraiment une fraîcheur comparée aux autres romans porno. Mais c'est aussi, alors je préfère mettre des réserves, il y a une petite baisse de régime malgré le fait que les films durent que 1h10. Mais après, on arrive dans le final qui est une sorte de Dog Day Afternoon, le titre en français.
Après-midi de chien.
Merci. Et je ne sais pas, je suis pas bilingue, hein, mais des fois les titres me viennent davantage en anglais qu'en français. Qui est totalement il est perverti. Je vais pas vous en dire plus, mais il y a des séquences assez étonnantes dans ce final. Et du coup, ce qu'on retient, évidemment, même s'il y a des hauts et des bas, c'est vraiment ce début fracassant, ces décors et surtout ce final incroyable. Mais je ne dévoile rien. Je vous invite vraiment à le prendre. C'est vraiment curieux comparé aux autres romans porno. Celui-ci, il est assez détonnant, quoi.
Et on reste dans l'érotisme avec ton deuxième choix. Et là, on est quasiment dans quelque chose de déconseillé aux âmes sensibles. Là, vraiment super érotique.
Quelque chose de beaucoup plus baroque.
Totalement. C'est très... c'est fou. Et c'est une grande épopée de SS Rajamouli. J'en profite pour faire une petite anecdote.
J'ai dit quand même, c'est donc du coup tu as le DVD de la grande édition collector de chez Carlotta de La Légende de Baobali.
J'allais le préciser après, mais tu fais bien parce que. Non, tu fais bien parce que sinon les gens vont pas savoir de quoi je vais parler, même en termes d'anecdote. Moi, il faut savoir que j'ai découvert par hasard Rajamouli en 2011 à Cannes, au marché du film de Cannes. Parce qu'à l'époque, on avait un média qui s'appelait le Inculte, le webzine, avec Sylvain.
On connaît très bien.
Merci. On était donc avec Sylvain et Anthony, mais après, il y avait d'autres gens qui nous aidaient un petit peu de temps en temps sur Inculte, mais c'était vraiment nous trois. Et moi, j'écumais le marché du film de Cannes parce que bon, la compétition officielle, c'est très bien. Hein, moi, j'aime beaucoup, mais c'était vraiment ce qui était le plus étonnant, c'est les films au marché. Et j'ai vu un film de super-héros avec une mouche et j'ai fait mais c'est quoi ce truc. Donc j'y suis allé sans savoir ce que j'allais voir et j'ai découvert comme ça donc comment Iga qui va sortir également chez Carlotta dans pas longtemps. Et en plus j'ai vu la version automatiquement directement la version longue parce que je crois après il était dispo sur Netflix mais en version cut. Et donc j'ai fait ouais, c'est quoi ce truc. Et ce qui est marrant c'est qu'en sortant de la salle du coup du marché j'ai vu un indien qui disait oui c'est mon film voilà et qu'est-ce que vous en avez pensé et tout, est-ce que vous voulez que je vous laisse une copie parce que c'était au début où je commençais à lancer Badlands et je lui dis bah oui écoute et il m'a laissé une carte. J'avoue j'ai pas à l'époque j'ai pas du tout fait attention donc je ne sais pas si c'est le producteur ou si c'était Rajamouli lui-même qui me demandait ça mais je trouve ça fou de me dire que j'ai peut-être rencontré Rajamouli. Oh, bref, quoi qu'il en soit, j'ai découvert donc, la légende de Baobali quand il est sorti en salle de manière vraiment, c'était des séances exceptionnelles.
Ouais,
je les ai découvert au Rex.
Des distributeurs spécialisés et tout ça, voilà. Ouais.
Et je me suis pris une grosse claque parce que c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'imagerie. Et là, quand on voit, c'est des purs comic books, des images de fous. Moi, ça me rappelle vraiment tout ce qu'on n'a pas dans les Marvel. Alors, bon, après. Dans le sens où moi dans les Marvel quand je vois d'un côté de ma couverture de comics tous les méchants qui sont prêts à rentrer dans tous les gentils qui sont de l'autre côté et que ça va faire un gros cataclysme et tout ça, bah là il y a ce genre d'image épinale dans Baobali, dans RRR dans un autre genre mais c'est tout ce que j'aime et franchement on s'ennuie pas une seule seconde. C'est beau, c'est jouissif, c'est, on en prend plein les yeux. Moi, j'adore aussi comment le cinéma indien pour son exubérance, que aussi sa musique qui en fait des tonnes. Voilà, c'est vraiment un cinéma visuel sensitif, comme je l'aime. Et j'aime aussi beaucoup la musique. Là, il y en a encore, comme il y en a aussi dans RRR. Pour moi, le film indien, il faut qu'il y ait de la musique. Bref, je ne sais pas comment vous dire, c'est le Seigneur des Anneaux, mais sous acide, voilà. Avec des lumières folles.
Il ne faut pas arrêter de le redire, parce qu'on va avoir la chance en France d'avoir au moins 3 rééditions. Enfin, Baobali est déjà passé, mais Iga, effectivement, va ressortir, ainsi que RRR fin juillet. On a la chance à la convention d'avoir une séance de RRR ce soir en avant-première. Mais surtout, n'hésitez jamais à aller voir les films en salle. Évidemment, procurez-vous les DVD, mais l'expérience collective de voir un film indien en salle rempli, la jouissance se ressent, et quand elle est partagée comme ça dans une salle de cinéma, c'est extraordinaire.
Oui. Oui, c'est clair. Et moi, je me souviens quand RRR est sorti, je suis allé le voir donc du coup dans le réseau de salles parce qu'il y avait des sorties mondiales en même temps. Et c'est vrai que comment l'engouement qu'il y a dans les salles, parce que surtout sur Paris, je sais pas si c'est
avec
le cas.
Quand il y a la communauté. Aussi,
voilà, il y a la communauté indienne, mais qui se lève. Moi, j'ai vu même d'autres films avec Shah Rukh Khan quand il apparaît avec ses abdos là récemment, les gens ils se levaient, criaient et tout ça. Mais il y a une effervescence communicative, mais c'est génial quoi. Moi, j'aime bien cette ébullition. Le côté où le spectateur participe quand les films s'y prêtent. Évidemment, quand je vais voir un film d'horreur avec une ambiance, bon, j'aime pas trop que le gars vienne bouffer du popcorn à côté de moi. Mais là, ça s'y prête. Et c'est génial d'avoir du cinéma vivant comme ça. Et Baobali, RRR et Iga qui sortent chez Carlotta, c'est exactement ça. Et il faut être attentif parce qu'il y a des choses qui vont se faire sur les cinémas indiens. Je vous en dis pas plus. Pas chez moi, mais je sais que vraiment il y a un engouement et il y a des choses qui vont arriver très prochainement sur le cinéma indien chez d'autres éditeurs.
Trop bien, très bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Ouais, je vous en prie.
Merci Guillaume.
It's cool to be a filmmaker. No, it's not cool. It's a series of humiliations. It's a series of banalities every single day on a shoot.
Toujours à la convention cinéphile et nous accueillons cette fois un étranger, quelqu'un qui vient en dehors du territoire breton puisqu'il est nancéen. Donc c'est Damien qui participe notamment au podcast Vanishing Point.
Ouais.
Et tu as dépensé ici beaucoup trop d'euros et tu voulais nous parler notamment d'un film que tu affectionnes, The Way of the Gun de Christopher McQuarrie. Avant qu'il ne devienne le Yes Man de Tom.
Ouais, alors en plus, j'ai pris parce que chez Kétienne, c'est son film préféré. Mais ouais, parce qu'il y a une réédition chez l'Atelier d'Images qui est sortie il y a quelques mois, film de 2000. Et donc, c'est vraiment son premier film après qu'il ait eu l'Oscar pour le, le meilleur scénario pour Usual Suspects. Et c'est un film que je trouve complètement oublié. Alors, pour ceux qui l'ont vu, malheureusement, ça ne marche pas toujours. Mais... je trouve que c'est un film absolument génial. Alors, vite fait, c'est quoi ? C'est des mecs, des malfrats, qui est un peu loser, qui vivent au jour le jour. Ils font des dons de sang, des dons de sperme pour un peu se faire un peu d'argent de poche. Et à un moment, généreux, ils décident quoi. De kidnapper une femme qui est enceinte. Déjà, l'idée est cool, c'est parce que c'est pas la femme qui les intéresse, mais c'est le bébé qui est pas encore né, qui va servir d'échange contre une rançon. Sauf que ils mettent les pieds dans un truc de mafieux ultra compliqué, dont ils sont trop petits pour affronter tout ça. Et le film passe son temps à faire l'inverse de ce qu'on peut attendre d'un film de kidnapping, puisque t'as la poursuite la plus lente de l'histoire du cinéma, t'as une violence très pékinpah à la fin. Je trouve que l'hommage est pas du tout galvaudé, je trouve qu'il est super. Et surtout, t'as des dialogues de taré où tu peux comprendre troisième, quatrième, cinquième lecture. Il y a une musique de Joe Kramer qui défonce. Il y a James Caan dedans qui est absolument aussi super. Avec sa phrase géniale quand il dit « La seule chose que tu peux comprendre d'un vieux débris, c'est que c'est un survivant ». Je trouve ça génial. Et ouais, le film il défonce, quoi.
Est-ce plutôt un film de scénariste ou un film de metteur en scène ?
Alors, c'est les deux. Ouais, c'est vraiment les deux. Il y a des plans d'enfer. À chaque fois, tu as beaucoup de travelling arrière où à chaque fois, tu as des gens qui discutent. Donc, la scène a l'air simple. Puis, ça recule. Puis, en arrière-plan, tu vois quelqu'un qui écoute. Tu dis, mais elle ne fait pas que passer la personne, pourquoi est-ce qu'elle écoute ? Qu'est-ce qu'elle essaie d'enregistrer ? Puis la caméra recule encore, puis tu as à nouveau un troisième niveau de lecture. Puis tu comprends qu'en fait, ce que les mecs se disent au départ, il y avait déjà un cinquième niveau de lecture. Donc c'est à la fois scénariste, dialoguiste, mais au niveau de mise en scène, c'est absolument hallucinant, quoi. Et je n'entends jamais personne causer, je trouve ça bien plus intéressant que ce que fera Christopher McQuarrie ensuite, quoi. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins, je sais que tu es très amateur de la période Tom Cruise, mais j'ai l'impression que le film est pas complètement à la trappe, c'est un peu injuste, parce que bon, après je le suspecte, ce mec, on parlait que lui, quoi. Et je suis content que l'Atelier d'Image ait réédité le film, parce que je pense que c'est... Tiens, me regarde. Et puis voilà, alors, le seul souci avec l'édition Atelier d'Image, j'aurais mis un peu plus de bonus, mais bon, ça c'est pas la mort, mais l'édition est superbe. Et c'est un film que... Comme je le suspecte, t'aimes bien te repère dedans à chaque fois. C'est que tu connais le film par cœur, mais quand tu relances dans le film, t'as l'impression que t'as une remise à zéro. Donc c'est un film qui peut pas s'user, en fait, pour moi. Et puis la scène de fusillade à la fin, je veux dire, niveau chorégraphie, lisibilité, la mise en scène, c'est à tomber par terre. Et une belle morale un petit peu cynique à la fin, je trouve, qui défonce. Il y a Geoffrey Lewis, Juliette Lewis aussi. Il y a Ryan Phillips qui va un peu à l'encontre de ce qu'il a
fait. Ouais. Que devient Ryan Phillips depuis qu'il a divorcé de Sarah Michelle Gellar?
En tout cas, c'est ce film où il joue un bad boy, t'as Benicio del Toro.
Sex Intention, déjà, c'était un peu un bad boy.
Ouais, mais séduisant, là, il est pas séduisant du tout. En plus, ils sont un peu gauche, c'est ça qui est trop bien. T'as presque envie de les aimer, les mecs, même si c'est des enflures. Mais ouais, le film, il est vertigineux, quoi. Donc voilà, moi, je conseille à tout le monde de revoir celui-là, parce que beaucoup plus que l'émission Impossible et puis tous les trucs...
Jack Reacher. Merci beaucoup, Damien.
Merci à vous.
Vous êtes chier. D'ailleurs, j'ai pas envie de mourir.
Mais t'as envie de quoi ?
Je vais aller au cinéma.
Voir quoi ?
Il y a des trucs chouettes en ce moment ?
Il y a un film bouleversant qui s'appelle Morne Pleine. C'est une histoire qui se passe dans le Nord, sur l'angoisse du chômeur qui regarde son terril. C'est en noir et blanc, caméra à la main, joué par des amateurs.
Allez-y, butez-moi.
Toujours à la convention cinéphile organisée par 97 mm à l'Arvor. Et maintenant, nous sommes, chose exceptionnelle, avec un jeune, un vrai jeune. Donc Conan, tu vas nous parler d'un film. De quel film vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler de Psycho Beach Party. C'est un film assez drôle, perso, je trouve. Un espèce de slasher qui se passe à la plage, mais un slasher très drôle. Avec donc une fille qui rencontre un gang de surfeurs. Et il aime bien le surf, sauf qu'entre temps, il y a des meurtres à côté, tout ça.
L'été, quoi, normal.
Voilà.
Et qu'est-ce qui est bien là-dedans, dans Psycho Beach Party ? C'est gore, un peu ?
Un peu, ça va. J'ai l'habitude, donc ça va, mais j'ai trouvé ça drôle.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Conan.
De rien.
Foutu.
C'est pas grave, vu on n'a qu'à changer le mouvement, t'en fais un autre.
Mais non, faut qu'on monte. Faut être à 4 mètres du sol si on veut voir l'étoile de sang.
Ouais, enfin, si on veut voir l'étoile. Hein.
Non, il faut qu'on voit l'étoile. C'est la clé du film. Ouais. Bah oui, sinon on comprend rien. Les morts ressusciteront de l'étoile du sang. Relis le scénario.
Écoute, sinon on fait pas la scène et puis c'est tout, hein.
C'est l'image de fin.
Oh, tu t'inquiètes trop, là, les gens, ils s'en apercevront même pas.
Mais si, les gens vont s'en apercevoir. Les gens savent très bien quand tu leur donnes de la merde à bouffer. Faut arrêter de les mépriser. Les gens. Comme tu dis, j'en peux plus de ce cynisme-là.
Bon, écoute, s'il te plaît, là, c'est pas le moment. On s'en branle le haricot, je te...
Oh, bien, arrête avec tes on s'en branle la nouille, le haricot, là. Tu fais chier. Tu crois que tu vas résoudre tous tes problèmes en me branlant ton truc? Je te parle de ce qu'on est en train de faire. Merde! Me dis pas que c'est pas important!
Toujours à la convention cinéphile, et après le fils, nous sommes avec le père, donc le...
grillé, quoi.
Grillé. Donc, Alexis, de quoi tu voulais nous parler? Tu voulais nous parler d'un film de Alex de la Iglesia, Perlita Durango, qui était ressorti il y a quelques années, déjà en Blu-ray chez Intersection.
C'est extra lucide. Et en fait, il était, pour la petite histoire, il était épuisé. Et ils ont retrouvé quelques copies. Et donc, ils en avaient quatre. Et là, je viens d'acheter une des dernières. Il ne reste plus qu'un exemplaire. Bon, ce sera trop tard quand vous écouterez l'émission. Elle sera partie. Et voilà. Alors, que dire de Perlita Durango? C'est un film qui est plutôt à part dans la filmo d'Alex de la Iglesia. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le... Ah non, il en a fait un autre aux États-Unis. Enfin, il a été tourné au Mexique.
Oui, mais c'est, en tout cas, c'est son premier film avec des capitaux américains.
Ouais. Voilà, c'est ça. Après, comment dire, des petits films, on va dire, à petit budget. Donc, un film un peu plus, voilà, qui a été très mal vendu à l'époque, vendu comme une suite de Sailor et Lula. Donc, c'est ça qui est, la première fois que j'avais vu, je n'avais pas du tout aimé, parce que je pense que c'est, la manière d'être vendu avait influencé, comment dire, ma façon de regarder le film. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Perlita Durango est un personnage que l'on aperçoit vite fait dans le Sailor et Lula, et qui est tiré, comment dire, joué par Roberta Rossellini dans Perlita Durango. C'est son nom, c'est...
Ah, j'ai totalement oublié le film.
Je l'ai dit il y a 30 secondes. Conan, comment elle s'appelle la fille qui joue dans Perlita Durango? C'est
la radio.
Rosie Perez.
Ah, Rosie Perez.
Rosie Perez. Et donc, voilà, c'est tiré, là aussi, genre, encore un trou de mémoire, donc du même auteur.
Barry Gifford.
Voilà, tu peux le dire au micro, s'il te plaît?
Barry Gifford.
J'ai déjà oublié. Voilà. Donc, que dire de ce film? C'est du Alex de la Iglesia, mais du Alex de la Iglesia très, très, très appliqué, avec des moyens, avec une mise en scène de ouf, à partir du moment où on décide d'entrer, de... lâcher les repères, tout est possible, donc ça part vraiment dans tous les sens. Il est aussi drôle que violent.
Oui, c'est très violent quand même.
C'est très 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 violent.
Il y a avec du vaudou.
Il y a du vaudou. Javier Bardem, il va complètement à fond. On a l'impression que tout le monde était sous coke, mangeait de la coke à la cuillère à soupe pendant tout le film. Ça dure longtemps.
Même son coiffeur.
Les coiffures sont fabuleuses. C'est... Voilà.
Très bien.
Je vous le recommande vivement. Regardez-le tout le temps. Docteur, passez-le au jeudi d'angoisse.
Il est passé ici il y a deux ans.
Il faut le repasser. Hein.
C'est moi qui l'ai présenté.
Oui,
déjà.
On a bien Mad Max 5 fois par mois, donc pourquoi pas. Voilà.
Vrai.
Merci à vous.
Médisance.
Perlita Durango en black and chrome, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Super film.
Merci beaucoup, Alexis.
Merci à vous. Super. Bon esprit. On est bien ici. On est bien à l'Arvor. Hein. Merci, Antonin. C'est bien. Super. À bientôt. Bisous.
Pardon, Monia. Je me suis emporté pour rien.
C'est pas grave, ami. C'est un film, tu vois. C'est juste un film. On s'en fout. T'inquiète. Rapide, pas cher. Et dans la moyenne, pas vrai?
Alors, on est présentement devant le stand de notre ami Jean-Pierre des éditions Rimini, en compagnie d'un autre Jean-Pierre. C'est fou, c'est génial ce genre de coïncidence. Jean-Pierre Eugène, auteur, ancien professeur de cinéma au lycée Saint-Martin, et qui a décidé du coup de nous parler d'une des éditions de chez Rimini. Alors vas-y, Jean-Pierre, c'est à toi.
Et ancien bénévole de l'Arvor.
Ancien
aussi.
Bénévole de l'Arvor, et qui est là.
Mais il y a très très longtemps.
Ouais, qui aussi, je veux le dire, qui expose aussi toute sa collection d'affiches pendant la convention cinéphile. C'est à toi.
Oui, je pourrais parler de beaucoup de films. Il y en a un quelques-uns qui me parlent beaucoup. Il y a Nightfall. C'est un film de Jacques Tourneur.
Oui.
C'est un cinéaste peu connu. Et pourtant, quand on regarde la liste des films, qu'on connaît un petit peu le cinéma, on se dit « Ah oui, c'est lui, ça aussi ». Et en fait, tout est bien, quasiment.
Oui, bon,
on connaît beaucoup La Féline, on connaît moins ses westerns. Et Nightfall, alors peut-être qu'il n'est pas sorti à l'époque en France, je ne sais pas. Peut-être que... Parce que s'il a gardé son titre américain, à l'époque, on traduisait les titres. Moi, j'ai d'abord lu le roman il y a au moins 40 ans, qui s'appelle tout simplement La nuit tombe, mmh. un roman de David Goodis. Alors, David Goodis est tiré sur Le pianiste, entre autres. Mmh. Et donc Jacques Tourneur avec... avec
Anne Bancroft.
Il y a surtout Aldo Ray, ouais. parce que c'est surtout mmh. un... Alors, elle joue un rôle important, ouais. mmh. mais c'est un excellent film noir et quasiment tourné complètement en extérieur, puisque ça se passe dans le quai d'une gare, je crois me souvenir au début, en extérieur, et après dans les montagnes rocheuses, dans la neige. C'est un excellent film à découvrir. Je parlerai également d'un film beaucoup plus connu, La Strada. Alors c'est un film qui me parle beaucoup parce que je l'ai vu en décembre 78. Je pourrais même dire que c'était le premier dimanche des vacances de Noël. Et il passait à 8h30. Donc à l'époque, la seule chaîne télé passait du Fellini un dimanche soir à 20h30. Et j'étais déjà cinéphile, mais j'allais voir des dessins animés, des comédies de Funès, Belmondo, ce qui sortait quoi, en 68. Et là, je vois La Strada, dont j'avais entendu parler. Et c'est la première fois que je pleurais au cinéma. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, le cinéma, ça peut émouvoir. Parce que c'était que de la distraction. Déjà, ça, c'est déjà très fort. Mais ça peut toucher. Et là, ça m'a complètement ébloui. Pourtant, je l'ai vu en version française. Cela dit, la VO, c'est Anthony Quinn qui est doublé, mais... c'est un film qui m'a énormément marqué. J'étais pas tout seul d'ailleurs, parce que je me souviens un de mes meilleurs copains qui habitait à côté de chez moi, pareil, il avait été scié. Et donc on pensait que La Strada c'était Giulietta Masina. On a su beaucoup plus tard que ça voulait dire la route en italien. Bon, et donc j'avais noté Anthony Quinn et Fellini. Et donc je voyais. Alors c'était facile à la télé de voir des films avec Anthony Quinn, parce que le dimanche après-midi il y avait souvent un western ou un film policier, un film de guerre. Donc Anthony Quinn j'avais vu pas mal, mais beaucoup plus tard, enfin non, 13-14 ans, j'ai vu 8,5. Là j'ai eu un peu de mal, surtout juste après j'ai vu Fellini Satyricon qui sortait. C'était un peu trop pour moi, évidemment j'étais beaucoup trop jeune pour apprécier ces films. Et donc Fellini, Anthony Quinn, c'est les premiers noms que j'ai notés. Je connaissais Delon, comme tout le monde, Gabin. Voilà. Donc je pourrais parler d'autres films aussi, La femme à abattre notamment, un film de Raoul Walsh. Je crois qu'il est signé d'un autre cinéaste, mais il est souvent connu pour un co-réalisateur, Raoul Walsh. Nightfall, La Strada, La femme à abattre. Et puis beaucoup d'autres titres. Voilà ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Je vous en prie.
Let's see if we're on national television.
Tony, is it over? Tony.
Fucking John Wayne.
Thank you.
How am I supposed to compete with John Wayne?
Nous sommes toujours à la convention cinéphile organisée par l'association 97 mm au cinéma Arvor. Et maintenant, nous sommes avec Vincent Paul Boncourt, d'un petit éditeur Carlotta, qui donc, tu as décidé de nous parler de trois films, hein, parce que tant qu'à faire, autant ne pas faire comme les autres.
Trois films, parce que c'est vrai que c'est trois films qui se correspondent, et trois films de Johnny To, même si je vois qu'il y a aussi Waka Faye, qui est un peu son acolyte, souvent en duo ou réalisant lui-même des films produits par Johnny To. Et donc trois Arte, alors, j'en ai vu qu'un sur les trois, mais ça me donne envie de voir les deux autres. J'avais vu My Left Eye Sea Ghost, donc c'est édité par Badlands, jeune éditeur, c'est bien de parler des petits jeunes hein, dans l'univers de la vidéo. Et ce film-là, je l'avais découvert au forum, à l'étrange festival Forum des Images il y a un an. Et c'est vrai que le film est assez étonnant, où c'est du pur Johnny To virtuose de la mise en scène, mais traitant sous forme à la fois fantastique, comédie, d'un film, d'un ton sur l'univers des fantômes. Et c'est vrai que j'étais assez... Évidemment, tu as toujours envie de voir un film Jeunito, même si un film mineur Jeunito, c'est toujours mieux qu'un film majeur de plein de cinéastes.
Oui.
Et on sait qu'on a vu à la fois pas mal de choses du cinéaste, mais plein de choses qu'on n'a jamais vues, ou alors d'aller chercher les VCD à Hong Kong ou ailleurs. Et donc là, c'était voilà, la découverte d'un film dont je ne connaissais rien et qui m'a vraiment séduit et qui m'a donné envie de voir prochainement et de découvrir. Alors ce film-là, dont, parce que c'est vrai qu'on ne se souvient pas toujours entre les titres originaux et internationaux, mais je me suis aperçu...
Les titres ressortis.
Les titres de sortie en discutant avec nos camarades Badlands, que je l'avais vu, c'est au niveau autour de l'univers du Mahjong et donc aussi comédie et assez étonnante. Et alors celui-là, je ne le connais pas du tout, c'est Help. Plutôt dans l'univers apparemment ambulancier, hôpital, etc. Et donc, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que spectateurs et éditeurs et chez nos camarades, de découvrir des choses qui sortent, entre guillemets, un peu de nulle part, y compris sur de grands cinéastes qu'on connaît, qu'on ne va pas faire découvrir, mais on connaît le Jeunito, mais d'aller chercher et trouver des films, des petites pépites qui viennent comme ça de nulle part et qu'on découvre. Alors, pas forcément les plus grands films du cinéaste, comme on en parlait, mais en même temps, des films qui font partie la curiosité, l'envie de la découverte, le défrichage. Et ces trois titres-là me semblent être dans cet esprit-là. Et c'est génial de se dire que ça soit édité.
Et que ça sorte en France.
Ça sorte en France. Ça a été, je pense, jamais édité en vidéo en France. Donc on est aussi sur cette actualité permanente de l'édition physique, qui est évidemment plus le marché, même marché qu'il y a 20 ans, qui est plus un marché de niche, de collectionneurs, mais qui est extrêmement vivant. On le voit à travers le monde de la convention, le monde qui est là, présent à la convention, dans les différents événements où on va, on se déplace beaucoup, et on voit qu'il y a un public qui est là, qui a envie, et d'aller à la fois des films, on le voit, hein, chez nos camarades, chez nous, des films les plus connus de l'histoire du cinéma, à des choses complètement méconnues et qui sont des découvertes, à l'instar de films nouveaux et contemporains. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent.
C'est Jessica. Jessica, c'est Amin.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Yes, I'm Arabic.
You look like the same, huh?
Yeah, he's a little bit cuter than you, I thought.
No.
You are.
Il est beau, il est beau. Il est shy, un petit peu.
I see that.
Well, he could be a movie star.
Yeah,
you look a bit like a young Omar Sharif.
Me too. I can do Omar Sharif.
You? No.
Come on, I do the accent with like this.
Look, Omar Sharif.
He is Montgomery Clift.
Yes.
Montgomery Clift.
Look.
Montgomery
Clift.
Okay.
Well, what's your dad?
You want to sit down?
Yeah.
Sit down. Let's get some
couscous. You want a couscous now?
Yes.
Oh, yeah.
Okay.
Yes. Totally.
Toujours à la convention cinéphile au cinéma Arvor. Et nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, mais il y a aussi parfois des anciens, comme on dit, peut-être parfois un peu méchamment, des ancêtres, des vieux croutons qui aussi se lancent dans l'aventure du podcast à l'époque où l'ORTF existait encore. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir un nostalgique de Guy Lux et Léon Zitrone, donc Antonin Moreau, qui a lancé... sur la TSF, une émission qui s'appelle « Le cinéma est mort », parce que de plus en plus, tu t'en rapproches aussi. Et donc, tu as voulu, comme tu es quand même une vieille personne, ne pas parler de films, mais de vraiment ce qui a précédé les films, le monde des idées, le monde du verbe, et donc de parler d'un livre de cinéma, d'un livre d'entretien de Nicolas Saada. C'est bien ça?
C'est exactement ce dont je voulais parler, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ils ne lisent plus, ils n'arrivent plus à regarder un film en entier, parce qu'avec Toc Toc et tout ça, évidemment,
Amstram grave.
Ils ne peuvent pas. Et donc c'était important de remettre à l'honneur cet objet qui peut paraître a priori assez désuet, qui est le livre. Et voilà, donc en tout cas, trêve de plaisanterie, je suis ravi, on est devant le stand de Carlotta, tu ne sais pas présenter contrairement à moi, je dis on était devant le stand de Carlotta, et contrairement à...
C'est ton boulot aussi
et
de le
moi,
faire.
Moi je suis tellement original que je n'ai pas pris un DVD sur le stand de Carlotta, j'ai pris un livre et j'ai pris leur dernière édition, j'ai pris le deuxième tome de Questions de cinéma de Nicolas Saada. On avait parlé lors d'une émission. Alors Nicolas Saada, c'est un cinéaste critique et animateur radio. Tu sais, la radio, c'était le truc avant le podcast.
Je sais, moi, je fais de la radio, moi.
Et qui, en fait, on avait déjà parlé de ça au Cinéma et Mort, le premier tome de Questions de cinéma qu'on avait beaucoup aimé au Cinéma et Mort. Et moi, j'attendais vraiment de pied ferme le deuxième tome. Ce sont là exclusivement des entretiens avec des cinéastes et des gens aussi divers que Agnès Varda, Abel Ferrara, Peter Weir, et j'en passe, Maurice Jarre. Et puis plein. C'est plutôt un gros bouquin, mais qui évidemment.
Mais aussi très, très des bien. Gens pas très compétents comme Michel Legrand.
Michel Legrand qui parle du rock en termes très élogieux. Non, je crois qu'il est... enfin bon, bref, en tout cas, c'est un bouquin extraordinaire. Bah, je trouve qu'il y a une qualité d'entretien qu'on pouvait déjà ressentir quand on connaît un petit peu le travail cinéphile de Nicolas Sadin dans les revues dans lesquelles il a officié, et notamment les cahiers. Vraiment, une qualité d'intervieweur assez folle qui repose peut-être en partie aussi sur une érudition qui dépasse peut-être celle du strict cinéma, c'est-à-dire qu'on sent que le mec il a une compétence en musique, en peinture et tout ça, et aussi une attention qu'il avait déjà avant même d'être cinéaste, mais sur le faire, la fabrication et tout, qui donne des qualités d'entretien à la fois assez théoriquement fulgurant. Je pense particulièrement à l'échange qu'il a avec Walter Murch. Bon, Walter Murch, bon, cinéphiles un peu aguerris savent qui c'est, mais savent que c'est à la fois un pratiquant de cinéma assez fort en termes de montage, mais aussi un théoricien forcené de l'évolution du montage à travers l'histoire du cinéma et du montage son et du montage image. Enfin voilà, quelqu'un de, et bon, le dialogue qu'il a avec Nicolas Sada est absolument passionnant, parce que voilà, il a en face de lui aussi quelqu'un qui est dans le faire et se pose des questions. Donc voilà, ça vient de sortir chez Carlotta, Questions de cinéma volume 2. Le volume 1 il est toujours aussi disponible, et c'est je trouve deux bouquins extraordinaires.
Merci beaucoup, Antonin, de nous avoir régalé de ton savoir sur les mots.
Je suis là pour vraiment illuminer la jeunesse de mon savoir incommensurable.
Et mon sentier lumineux.
Merci, Thomas.
Good night, comrades. Long live the Communist Party of Lenin Stalin. Long live John Wayne and John Ford.
Toujours.
Eh bien, bonjour.
Ah.
C'est bon. Bonjour, nous sommes donc avec Kiki et Étienne.
Tais-toi, c'est pas la peine, de toute façon, c'est moi qui fais le montage. Toujours à la convention cinéphile organisée par l'association 97 mm au cinéma Arvor. Hein, vous voyez ici, l'ambiance se fait de plus en plus détendue et chaleureuse, car nous sommes en pas direct et en public avec Melvin Z. Melvin, bonsoir.
Eh bien, bonsoir.
Et donc, Melvin, pour une fois, tu as décidé de ne pas parler de ta propre lessive, mais de la lessive des autres. Et tu as décidé de nous parler, avec un peu de copinage, d'un livre édité par Pulse, écrit par Eugenio Ercolani, Cannibal Worlds. Et donc, de quoi peut bien parler ce livre?
Eh bien,
sur le genre le plus controversé de l'histoire du cinéma.
Eh bien, a priori, ça parle de films de cannibales.
Oh.
Et donc, c'est le livre que j'attendais à cette convention, qui est sorti il y a déjà, je dirais, peut-être deux ou trois mois, sorti par nos camarades de Pulse. Et donc, l'un des premiers livres de Eugenio Ercolani, dont le métier est essentiellement de faire des bonus pour des éditions internationales chez Arrow, chez Vinegar Syndrome, etc. Sur essentiellement les Italiens, une véritable machine qui produit du bonus non-stop. Et donc ça faisait déjà quelques années qu'il préparait un très gros livre sur le cinéma de cannibales et essentiellement Cannibal Holocaust, en ayant à peu près interviewé tous les gens, non seulement qui sont encore vivants, mais encore, m'a-t-on dit, les morts.
Est-ce possible?
Par des rituels sataniques très étranges. J'ai pas encore lu tout le livre, donc je suis pas encore au courant de toutes les techniques employées pour convoquer la présence de certaines personnes.
Le film cannibale, c'est plutôt quand même un sous-genre du cinéma italien.
Alors moi, j'ai envie de dire, c'est le cinéma italien. Le cinéma italien, c'est le cannibalisme. Et pour ça, il faut revenir peut-être au XVIIe siècle. Non, mais c'est quand même un genre particulier. Moi, c'est un genre que je déteste, mais c'est vraiment essentiellement que de la merde. Mais il y a un chef-d'œuvre et un film vraiment pas mal.
C'est
Cannibal Holocaust et puis Le Dernier Monde Cannibal. Qui est vraiment... Donc, des films qui sont disponibles en Blu-ray chez nos camarades de Pulse. Mais surtout, je vous invite à vous procurer ce livre de Eugenio Ercolani sur Cannibal World. C'est vraiment le gars qui s'y connaît le mieux sur le sujet, et c'est une merveille, un miracle qu'on puisse avoir cet ouvrage. Ercolani prépare un livre sur Reanimator, toujours pour les camarades de Pulse, mais là ça m'intéresse un peu moins. Mais bon, j'imagine que si celui-ci marche bien, on en aura d'autres. Le genre le plus controversé de l'histoire du cinéma. Eh bien, ça tombe bien, parce que à mon stand, vous pouvez retrouver le crayon à papier le plus controversé de l'histoire du crayon à papier. Voilà.
Très bien.
Écoutez, j'aimerais bien en parler beaucoup plus de ce livre qui est
magnifiquement mise en page, mais je viens de le récupérer il y a tout à l'heure. Des photos, des meufs à poil, du sang, des cannibales. C'est visiblement, ça ment pas sur ses promesses. Et donc, je pense que c'est l'un des livres les plus intéressants, les plus importants qui sortira cette année.
Comme le tien est sorti l'année dernière.
Exactement, comme le tien est sorti l'année dernière. Et donc, n'hésitez pas à vous le procurer en allant sur le site des éditions Pulse, donc www.pulse.fr, j'imagine. Vous vérifierez vous-même, vous demanderez à ChatGPT, vous aurez les infos. Voilà.
Merci.
Écoutez, je ne sais pas qu'ajouter. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je rends le micro, Étienne.
Merci.
À vous les studios.
À vous, Cognac G. Merci, Melvin.
Dis nom de Dieu, André. Regarde-moi ça, cette grosse caméra. Ça, c'est du bon matériel. Merde alors. Ça t'intéresse pas?
Non, c'est de la vidéo.
Et nous, c'est quoi?
Des films.
Oh!
C'est au tour de Gwendal qui a été déjà, qui était déjà passé il y a 2 ans de ça et qui avait été maintes fois à l'honneur à travers ses éditions, la boîte qu'il tient qui est les éditions Intersection, et on avait eu l'occasion nous de parler au Cinéma est mort de son travail sur, qui est toujours en cours sur John Sayles. Dernièrement là, sur son stand il y a Baby It's You qui est sa nouvelle édition de John Sayles. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on sait que plusieurs titres vont arriver. C'est en tout cas au Cinéma est mort, hein, quelque chose qu'on suit avec beaucoup de gourmandise. Et Gwendal, l'année dernière, nous avait Thomas à côté ricane. Et Gwendal, du coup, en plus de ses éditions, voudrait évoquer lui, parce que lui aussi triche. Moi, je n'interview que ceux qui trichent. Il va carrément aller parler d'une édition qui n'existe pas, mais n'importe quoi.
Eh oui, on essaye de se différencier, de faire son intéressant. Exactement. Non, je vais parler de Thorasan. Thorasan, donc chez Roboto, qui sortira en 2026. Et Thorasan, en fait, ça, j'ai envie d'en parler parce que c'est un pari éditorial. C'est un gros pari. Alors, Thorasan, c'est une série de films. C'est, je crois, la plus longue série de films jamais réalisée au Japon. Je crois qu'il y a une 60aine de films. C'est avec le même personnage, principalement réalisé par le même réalisateur, et c'est un succès populaire immense. Sauf qu'en France, il y a eu une rétrospective Thorasan qui a eu lieu à la Maison de la Culture et du Japon à Paris au fil d'une année, mais il n'y a jamais eu d'édition vidéo. Et on sait que le marché de la vidéo est ce qu'il est, et sortir donc ce genre de film en France en 2026, à partir de 2026, parce que c'est le premier coffret d'une longue série, c'est un vrai pari éditorial. Et j'ai envie de leur tirer un vrai, vrai coup de chapeau, de se lancer là-dedans. C'est un pari un peu fou. Je leur souhaite le plus grand, grand, grand succès avec cette affaire-là. Je vois très bien les éditions qu'ils ont pu sortir là, sur le même modèle Zatoichi, avec les premiers films de la série Zatoichi, avec le degré de qualité auquel ils nous ont habitués en très peu d'années d'existence. Je sais que Thorasan, ils vont nous faire exactement la même chose. Moi, en tant que gros consommateur, gros cinéphile, c'est exactement ce que j'ai envie de voir chez d'autres éditeurs. Donc je leur dis mille merci. Voilà, ça va finir sur mes étagères très très vite, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà.
Ça parle de quoi, Thorasan ?
Ah, alors Thorasan, il faudrait leur demander à eux de le résumer. C'est un monsieur tout le monde au Japon, qui a toute une série d'aventures, de quiproquos avec les femmes en particulier. Donc ce sont des comédies populaires, ce sont des comédies, il y a de l'absurde, il y a du gag, il y a du drame, ça mélange. Demandez à Roboto, si vous voulez vraiment qu'il vous fasse un pitch global de tous les épisodes. Je suis loin d'avoir tout vu, j'en ai vu un ou deux, le reste c'est pour la découverte.
Merci Gwendal.
Merci à vous et merci de l'accueil.
C'est quoi ? L'enfer est à lui. C'est bien ? Super. Il y a ta meuf qui t'attend dans ta chambre. Là, elle ne doit plus t'attendre.
Alors, je suis avec Philippe des éditions Tamassa, qu'on est encore une fois pour la deuxième année consécutive, ravi d'accueillir pour la convention Cinéphile. Tamassa, à la fois distributeur salle et éditeur vidéo. Et Philippe, il a décidé de nous parler de Zatoichi, d'un coffret Zatoichi qui est présent sur le stand de Roboto. Et peut-être qu'il veut d'abord commencer par parler d'un autre coffret de Jutelec. Bon, allons-y, Zatoichi. La série assez légendaire du cinéma japonais. Vas-y.
Et ben voilà, c'est justement parce qu'elle est plus qu'assez légendaire, elle est franchement légendaire. C'est juste des souvenirs. Alors c'est un peu loin pour moi, mais c'est juste génial. C'est des choses qui sont tournées de manière hyper virtuose, alors que c'était peut-être considéré à l'époque comme un cinéma plus ou moins bis. Et j'adore vraiment ça. Et j'en ai des souvenirs. Top, et ça me fait plaisir d'en parler, et je me souviens plus de tout, et donc peut-être que je vais acheter le coffret. Et voilà, en tout cas bravo, parce que le coffret est super beau en plus, et je trouve ça très très bien, donc ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les éditeurs? On leur pose la question.
Ah bah, super content de les sortir, en plus ça a été un beau succès, donc du coup ça nous permet d'enclencher sur le prochain coffret qui sortira là maintenant en novembre. Donc là on avance, on continue à les Zatoichi avec l'objectif de sortir les 17 premiers, donc tous ceux qui ont été produits par la DAEI, et on verra ensuite ceux de l'ATO si l'ATO nous ouvre ses portes prochainement.
Il est parfait, il assure. Hein.
Il assure, grave, grave, mais toi grave, aussi, hein, Philippe, c'est très bien.
Donc voilà, donc en tout cas, les gens qui écouteront le podcast, il faut vraiment s'intéresser à cette édition parce que c'est des films sublimes. Alors après, il y a eu toutes les versions ultérieures jusqu'à Kitano, des choses comme ça, ça c'est d'autres affaires, mais la source est quand même franchement
meilleure. Ouais, c'est des super voilà. films.
Alors, pour puisqu'on est là, il y a juste à côté, donc je vais chez le voisin parce que sinon ils vont me faire la gueule. Donc le voisin, c'est Extra Lucide, comme leur nom l'indique. Et donc, ils ont un coffret, c'est complètement un autre genre, absolument, des films géniaux. C'est les films de Judy Telek, qui est une réalisatrice hongroise, qui était jusqu'alors inconnue pratiquement en France. Et grâce à eux, il devient connu en France. C'est des films sublimes, c'est à la frontière de la fiction du doc, certains. Et c'est très beau, c'est une spontanéité. En même temps, c'est maîtrisé, mais il y a une spontanéité dans la mise en scène qui est vraiment touchante. Je pense à La Dame de Constantinople, qui est un peu le best-seller, c'est ça hein? On peut le dire. Enfin voilà, c'est des films que j'adore parce que c'est complètement ailleurs. C'est autre chose que la plupart des propositions qu'on peut avoir souvent. Et c'est très touchant. Et c'est, voilà, j'aime beaucoup ça. Donc bravo à Patrice et à Karine, ou à Karine et Patrice plutôt, parce que quand même, pour leurs éditions merveilleuse et que j'adore ça.
Patrice, il n'aime pas du tout être cité en deuxième.
Mais Patrice, ouais. Ah oui, non, mais je sais, il va faire la gueule, ça, c'est terrible. En plus, il est limite masculiniste, en plus, il faut le dire. Donc, bon,
ça se voit sur son stand. Hein.
Bon. Voilà, donc, ben, c'est bon.
Merci beaucoup, Philippe.
Eh ben, merci.
À tout vite.
Oh, OK. I do the Aldo Machon
in water. Oh, cool.
At the same time.
My God. What time?
Okay. Back on us.
Vas-y, vas-y. You jump and you do all the match one.
Et je suis avec Karine d'Extra Lucide Film, dont Philippe de Tamassa nous présentait à une des éditions. Et voilà, on continue un petit peu le marabout de ficelle avec Karine qui, elle, a décidé de nous parler de Antonia et ses filles, qui vient de chez Tamassa.
Tamassa.
Ah, mais alors ça, si c'est pas du renvoi d'ascenseur, voire même du copinage, je sais pas. Allez, vas-y.
Antonia et ses filles, c'est un film que j'adore. C'est réalisé par Marlène Goris, une réalisatrice néerlandaise. C'est la première femme réalisatrice à avoir obtenu un Oscar pour ce film, justement. C'est une fable fantastique. Marlène Goris, son début de carrière, en fait, elle s'est centrée sur des films autour des femmes, des films féministes, la place des femmes dans la société, la sororité qui s'organise face au patriarcat. Et donc là, Antonia et ses filles, c'est une histoire de femmes de génération en génération qui est racontée un petit peu comme un conte de fées, avec une voix off, une très belle musique, avec des sujets tels que le désir d'enfant, la parentalité, mais juste une femme qui veut un enfant sans avoir forcément besoin d'un père et tout ça. C'est vraiment superbe à regarder. J'en profite, je sais, je suis un petit peu malhonnête, pour nous faire un petit peu d'autopromo, parce qu'on sort
les premiers films
de Marlène Goris. Ils ont été en salle l'année dernière, donc Le silence autour de Christine M, Miroir brisé. Les Blu-ray arrivent bientôt, mais tout ça pour dire qu'avec Antonia et ses filles, il y a quelque chose qui se passe autour de cette réalisatrice. Et plus largement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment autour du cinéma féministe. C'est des femmes réalisatrices qui sont remises en avant, le cinéma de matrimoine, et je trouve ça super important d'en parler.
Tout à fait. Merci beaucoup, Karine.
Merci.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors qui je suis ! Je suis cinéma ! Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma ! Cinéma !
Alors, comme prévu, on rejoint Benjamin de Roboto Film, qui, lui, est allé sur le stand de Badlands pour sortir l'attaque des fourgons blindés. Oui. C'est à toi.
Donc, film de Bruce Beresford, c'est un polar qui est sec. C'est un polar qui est procédurier. Et c'est intéressant parce que le donc, film australien, si vous aimez Héros ou Salopards, aussi de Bruce Beresford, mais qui était sorti chez les copains de Rimini, pareil, c'est un film qui démonte très simplement ces personnages et des personnages qui sont rapidement corrompus par la haine, la soif de fric aussi tout simplement dans celui-là. Mais ce qui est assez dingue, c'est dedans la manière dont la fiction rencontre aussi l'imagerie documentaire et vraiment le polar procédurier. Moi, ça m'a rappelé un peu ce que faisait Anthony Mann sur La Brigade du Suicide, par exemple. Et voilà, moi je le conseille, c'est un film qui est méga moderne, qui fait mal, et avec un des finales de films de braquage complètement ouf et bien sanglant aussi, quoi.
Effectivement, ça fait partie des petites pépites du cinéma australien, mais effectivement, qui n'est pas vraiment plus le champ le plus couvert par l'édition vidéo en France ni en salle d'ailleurs. Dans ce Blu-ray, DVD Blu-ray de chez Badlands, on peut retrouver aussi notre ami Melvin Z, évidemment, qui dès qu'il y a, ça sent le kangourou un peu, il est là. Et tant qu'on t'a sous la main, on a eu précédemment Gwendal des éditions Intersection, qui vous a signalé Roboto dans son choix et d'un film que vous n'avez pas encore sorti mais qui est Toto-san. Et quand on lui a demandé de nous résumer ce que c'était, il nous a dit non, demandez à Roboto. Alors c'est à toi.
Alors les Tora-san, ça va Tora-san, être
pardon.
Les Tora-san,
ouais. Toto-san, c'est bien aussi.
Ça va être littéralement des films feel good japonais. C'est des films qui n'ont jamais été vus en France, notamment parce que les Japonais considéraient que ça marcherait jamais à l'extérieur du pays, que c'était très culturellement ancré. Et alors que non, là, le pari de Roboto, c'est de montrer que, au contraire, ce sont des films universels et vraiment des expériences de comédie dramatique, mais qui sont très positives, quoi. Voilà. Donc il y a eu énormément de films.
C'est ce qu'il nous a dit.
Il y a près de 50 films.
Ouais.
Là, on va sortir. Donc les premiers et l'idée, c'est de réussir à tous les sortir, c'est un énorme pari.
Ouais, il nous a parlé que c'était effectivement un pari fou et donc les meilleurs, quoi. Trop bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Pourquoi avez-vous deux télés ?
Ah. Je peux voir des films à la demande. C'est un décodeur et il y a un câble qui part du bureau de la réception et qui est relié à cette boîte. Quand on choisit de voir un film avec ce système, il est aussitôt comptabilisé à la réception. Donc il suffit en fait de déconnecter un fil, de mettre une clé dans l'espace prévu et de la tourner d'un cran. Ensuite, il faut enlever le câble qui amène les programmes payants et le connecter à la télévision. Il faut un poste de télévision standard et j'emmène le mien partout où je vais. Ce qui fait que le câble, je le branche sur ma télé et pas sur celle de l'hôtel. Et je regarde tous les films que je veux.
Très ingénieux.
Mais soyez gentils, hein, il vaut mieux garder ça pour vous. Ne dites rien à personne, d'accord ?
C'est promis.
Ils en feraient probablement une maladie.
Toujours à la convention cinéphile organisée par l'association 97 mm Cinéma Arvor. Et là, nous avons des duettistes. Nous sommes avec Cédric Courtois, donc de 97 mm. Et nous sommes avec Bastien Meresson, auteur, qui ne sort rien en ce moment, si je ne m'abuse. Alors Cédric, de quoi tu veux nous parler ?
Ce qui va m'intéresser dans un événement comme celui-ci, c'est de retrouver les différents stands d'éditeurs de DVD, de Blu-ray, parce que j'attache, moi personnellement en tout cas, une importance vraiment particulière en fait à ce support-là que je défends aujourd'hui bec et ongle contre le format numérique. qui au final, malgré son énorme catalogue sous apparence, je parle du numérique là toujours, n'offre pas autant de diversité en fait que peut apporter en fait le support physique. Et là, on a des éditeurs aujourd'hui qui sont là pour justement nous faire découvrir ou redécouvrir des films, on va dire tout genre confondus, sur des éditions qui en plus sont vraiment traitées avec respect. Tout à l'heure, par exemple, on peut très bien, enfin, j'ai très bien pu trouver en fait des films de la Hammer. Avec les grands classiques de Terence Fisher, avec Christopher Lee, etc. Et d'un seul coup tomber sur un autre Blu-ray où là on est carrément sur les rats de Manhattan.
Ça va du grand classique de Ford au petit bis coréen.
Exactement. Moi c'est vrai que déjà je suis collectionneur aussi dans ce sens-là. Je trouve ça important d'avoir ce genre de rendez-vous à proposer au public en tout cas quoi, et puis justement à faire, parce que c'est aussi ça pour moi, c'est vraiment une question de partage de culture tous autant qu'on est tout en essayant de rester aussi humble qu'on puisse l'être, justement, avec les personnes qui, peut-être, n'y connaissent pas grand-chose, mais qui s'y intéressent, tout en croisant des personnes qui sont de vraies pointures par exemple, nous impressionnent par leur culture, quoi, cinématographique, voilà.
Bien, merci, Cédric. Et donc, Bastian, de quel produit culturel veux-tu nous parler ?
Quel produit culturel ? Alors déjà, je voulais dire que je n'ai pas chômé quand même ces dernières semaines et j'ai pondu quelques petites choses. Et j'ai pondu aussi quelques textes pour des livrets. Donc je vais vous parler d'un film qui n'est pas vendu actuellement sur le stand parce qu'il sort le 19 mai, qui s'appelle De l'eau tiède sous un pont rouge d'Imamura Shoei, qui est absolument sublime. Et donc j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir y coucher quelques pensées et de dévoiler quelques petits trucs dont on n'aurait pas forcément la notion en voyant le film, en complément en fait d'informations, et ce qui me permet surtout de mettre en fait un spotlight, un focus sur l'éditeur qui se cache derrière, où si j'avais le thune j'achèterais absolument tout. Il s'appelle Roboto. Et il s'est spécialisé dans surtout le cinéma japonais, plutôt de patrimoine. Donc on trouve des compiles totalement dingues, comme celle dédiée à Gamera et pour lesquelles vous avez diffusé également un film, donc extraordinaire. Pour voir le vrai adversaire de Godzilla, c'est pas les petits bonhommes méchants politiques ou soldats de service. Non, c'est Gamera en fait. Mais ils ne peuvent pas faire un Godzilla versus Gamera parce que c'est deux franchises, deux studios concurrents. Mais donc contentez-vous surtout de la compile Gamera en attendant. Il a ressorti des choses comme la compile Zatoichi. Donc un éditeur vraiment à suivre et dont les produits sont achetés les yeux fermés. Et un tout petit titre que j'aimerais mettre en avant qui s'appelle Steel Flower, qui est chez Badlands, parce que malheureusement il n'est pas du tout identifié du grand public et même des cinéphiles. C'est un petit film indépendant coréen qui est sorti il y a quelques années en toute différence en Corée et nulle part ailleurs quasiment, que j'avais repéré sur le circuit festivalier. Et en fait le réalisateur est un ami, il a écrit la fin de Steel Flower en venant chez moi et en passant une après-midi à Saint-Malo. Donc là, il a eu un flash.
C'est un film local, finalement, quoi.
Exactement, pur beurre, breton dedans. Ça se voit absolument pas à l'écran. Et ce film est souvent cité par Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, notamment, et The Host, Memories of Murder, comme étant un de ses films indépendants coréens préférés. Donc il faut absolument acheter ou voir Steel Flower, qui peut désarçonner, qui n'est pas le film le plus facile, mais qui montre un vrai aspect de la société coréenne, et avec une actrice absolument sublime qui a fait d'autres films avec le même réalisateur et qui est apparue après chez Park Chan-wook dans un rôle secondaire dans Mademoiselle et bien d'autres choses. Mais enfin bref, achetez le film et vous saurez à peu près tout sur le cinéma indépendant coréen.
Merci beaucoup, Bastian. J'ai l'impression de bosser pour le Télégramme. Chaque film, on arrive à trouver un truc de la Bretagne dedans. Merci.
Vous allez regarder un film, vous voulez qu'on vous attende?
Vous allez regarder quoi?
Bon, je sais pas, peut-être un Guitry.
Mais vous en avez pas déjà regardé plusieurs?
Ouais, mais enfin, tu sais, c'est une drogue dure pour moi.
Ou un Renoir, tu sais, on avait dit qu'on reverrait Elena et les hommes.
Non, non, merci, je préfère lire avant de me coucher. Ah, à ce propos.
Oui?
Ça vous embêterait de pas mettre le son trop fort?
Bah, on ne met jamais vraiment très fort.
On met pas fort.
Bah oui, mais c'est juste en dessous de notre chambre.
Enfin bon, c'est pas nouveau, Étienne. Enfin, c'est comme ça depuis qu'on est enfant.
Je suis désolé, j'ai un peu pris des habitudes de vieux.
Écoute, il n'y a aucun problème.
Non, 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 mais c'est moi qui m'excuse.
Enfin, on va faire attention.
Bon, hier soir, Carole et moi, on a dû mettre des boules qui est.
D'autant plus que j'en mets jamais parce que ça m'angoisse.
Non, mais juste, Étienne, hier soir, on a regardé un film muet.
Je sais pas, c'est que la musique était trop forte.
Oui, oui, non, mais comme tu m'as fait la remarque hier, on a fait attention de mettre au minimum.
Oh,
mais bon.
Voilà, c'était assez bas.
Non, non, mais écoute, on va mettre encore plus bas. Je veux dire, au point où on en est.
Voilà, ça. Je te remercie par avance de le faire ce soir.
Non, juste pour savoir, dorénavant ici, on ne pourra plus que regarder des films muets.
Bah, tu m'avais dit que c'était ce que tu préférais.
Oui, oui, enfin, pas non plus exclusivement. Donc...
Ouais, en ce moment, j'ai des insomnies. Bon. Voilà, je traverse une période difficile. Le matin, je me réveille à l'aube, c'est pas marrant.
Bon, écoute, je réglerai au fur et à mesure, et puis, quand c'est trop fort, tu sais quoi? Eh ben, je le baisserai.
Eh ben voilà, on fait comme ça.
C'est très généreux de ta part.
Allez, sinon, bon film, du coup. N'hésite pas à mettre des coups de balai si on abuse, et on n'hésitera pas.
Et là, on est en face du stand de la librairie Le Fayet, où aussi vous pouvez retrouver les différents auteurs invités lors de la convention. Là, il y a Thomas Revet, par exemple, qui est là pour présenter son livre sur Walter Hill, sur Roche Profond. Et je suis en compagnie de Jacques Froger, camarade et collègue, qui est ex de l'association Clair Obscur, pour les Rennais qui nous écoutent, et responsable de, bah, au dispositif, hein, voilà, des dispositifs d'éducation à l'image, et grand amoureux du cinéma, grand cinéphile, fan de comédie musicale et de tant d'autres genres, et évidemment spectateur cinéphile très régulier de salles, mais qui, des fois, quand il a du temps libre, bah, lit des livres aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Merci de me laisser parler de l'impasse du livre, parce que le cinéma, c'est bien, mais lire le cinéma, c'est bien aussi. Et il y a deux éditeurs que j'aime beaucoup, qui sont à la fois Capricci et Rouge Profond, parce que je trouve que chacun a des fois une petite approche, un peu, alors, parfois sur des thèmes classiques, mais des fois aussi sur des auteurs un peu moins connus, sur des joueurs un peu moins connus. Donne la parole à des écrivains qui disent des choses aussi intéressantes. Donc voilà, c'est une façon un petit peu de... C'est pas du cinéma bis, mais c'est une façon différente de voir du cinéma, sortir du cinéma un petit peu... on veut dire classique, alors mainstream au sens cahier ou positif, être plutôt sur des références parfois un peu plus de type Rockyrama par exemple. Et ça, j'aime beaucoup. Je sais que l'ensemble a sorti un Rouge Profond, un livre sur Jean Tierney par exemple. Il y a très très peu de choses sur Jean Tierney. Là, je vois dans le stade Capricci un super bouquin sur un Suédois Hollywood qui est le début de carrière en fait de Vilgot Sosman, qui avant de devenir un cinéaste suédois important pour une nouvelle vague suédoise, a fait ses armes à Hollywood et a découvert l'Hollywood des années 50-60, donc une époque aussi intéressante. Donc voilà, des choses peu connues, étonnantes, et grâce à la lecture, on peut compléter en effet parce qu'on peut voir ailleurs en programmation, des programmations décalées, des programmations série B ou pas d'ailleurs, mais des programmations surtout un petit peu à la marge, et ça j'aime beaucoup.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous.
C'est une jolie voiture, vous êtes un connaisseur. Ouais, mais ce que je préfère, c'est les vieilles américaines. Vous aimez quoi? Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une Mustang. Comme Steve McQueen. Ouais. Ouais, Steve McQueen. C'est marrant, en général, pour les gars de votre âge, Steve McQueen est un inconnu. J'ai grandi avec ses films. Vous avez un préféré? Je dirais... Bullitt, pour les courses-poursuites. Ouais. Ouais, le mien, c'est l'affaire Thomas Crown. Il interprète le rôle d'un voleur de prestige. Je l'ai pas vu, celui-là.
Et on est bizarrement de retour sur le stand d'Extra Lucide qui a allongé un petit peu les billets à tous les participants de la convention pour que tout le monde vienne vendre leurs éditions. Et là, on est en compagnie de Clément Moncharmont qui est là pour présenter son bouquin « Sexploitation et controverse américaine, l'art cinématographique de Russ Meyer ». Alors bon, faites une recherche Google Images Russ Meyer, vous aurez une petite idée des photos si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Russ Meyer. Et Clément, il a décidé de nous parler de
Bellflower que vous avez ici. Donc Bellflower qui vient d'être édité du coup chez Extra Lucide Film, qui à l'époque de sa sortie en salle m'avait profondément marqué parce qu'étant jeune étudiant qui rêvait de cinéma, qui avait des étoiles plein les yeux au niveau de tout ce qui est genre cinématographique, Bellflower pour moi a été une révélation. Une révélation dans le sens où on peut créer un film avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'inventivité et beaucoup de savoir-faire. Puisque Bellflower, ça a été réalisé, c'est l'unique film actuellement d'un cinéaste américain nommé Evan Goodell, où on attend toujours éperdument un deuxième film, et premier film qui a été réalisé avec les moyens du bord, entre guillemets, dans le sens où Evan Goodell de base était, si je ne me trompe pas, quelqu'un qui était plutôt dans le domaine de l'ingénierie et qui, de par son savoir-faire, a créé lui-même les optiques pour son film. Et avec une bande de copains, ils se sont dit « Allez, on va faire un film en hommage à Mad Max, ultra référencé et vraiment une superbe expérience cinématographique, sans compter que même au niveau de tout ce qui était ustensiles, objets qu'ils utilisaient à l'époque, tout était créé par leurs propres moyens, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je conseille vraiment cette édition qui en plus regorge de bonus que j'ai hâte de regarder. Donc voilà.
Merci Clément.
Mais de rien.
Non, Mel Gibson est un grand comédien.
Nous sommes toujours à la convention avec Guillaume de Pulse. Et toi, de quoi tu as décidé de nous causer ?
Alors moi, j'ai décidé de vous parler du bouquin de Melvin. Vous allez trouver que c'est la consanguinité totale. Moi, j'avais envie de parler aussi d'un bouquin que je connais. Je le connais à plus d'un titre. Hein. Je le connais aussi pour avoir aussi pas mal aidé Melvin et Steve, son éditeur, à en convoyer un certain nombre. Et parce que ce bouquin, vraiment assez rarement, peut-être une fois tous les 3, 4, 5 ans, on voit arriver des livres comme ça où derrière, il y a des années en fait de travail, des années de recherche, des années d'entretien, et où il y a un projet qui force le respect. Alors c'est d'autant plus significatif et d'autant plus remarquable dans le cas de ce livre sur Mad Max 2 que Melvin a déjà fait un bouquin sur Mad Max 1 et qu'il a fait la somme qui n'a pas d'équivalent. Et alors moi j'étais très content de celui sur Mad Max 1, mais moi j'ai une préférence personnelle en plus pour Mad Max 2 qui a été un choc pour moi, tout un tas de titres personnels qui m'a moi le post-apo c'est vraiment mon genre de prédilection, c'est le genre dans lequel j'adore me plonger. C'est peut-être aussi une manière de se rassurer sur la fin du monde parce que c'est un genre dans lequel on peut se projeter, dans lequel on peut casser ce côté ludique de se dire qu'est-ce qu'on ferait nous, est-ce qu'on serait nous aussi un guerrier certes solitaire mais quand même qui sait discerner le bien du mal et qui va aider les gentils, ceux qui sont manifestement gentils contre les nouveaux sauvages. Donc moi je l'attendais comme tout le monde, hein, comme tout le monde a attendu le premier. Et effectivement c'est même pas que c'est à la hauteur de l'attente, quoi. C'est que il a vraiment retourné le truc dans tous les sens. Il a avec un degré d'information qui est d'une gourmandise qui fonctionne. Je pense même, on connaît aussi des gens qui sont peut-être un peu moins à fond dans le film, qui en fait ont compris pourquoi aller à ce niveau de détail là. Tout à l'heure, il parlait des fourchettes qui étaient utilisées sur le plateau, qu'il a documenté, qu'il a redessiné. Pourquoi aller à ce degré-là de précision, en fait, c'est important parce que on est sur un film qui a vraiment changé, qui a créé un genre, qui a créé tout un imaginaire, qui a complètement modelé toute la pop culture aujourd'hui, qui est toujours aussi pertinent. l'apocalypse, elle est, y a des raisons de s'imaginer qu'elle reste à nos portes, même si elle n'est pas précisée. D'ailleurs, en plus, c'est même ce qui est d'autant mieux dans avec Mad Max 2. Et avoir été vraiment... avoir tout raconter, avoir été chercher toutes les informations auprès d'une aussi grande quantité d'intervenants, jusque voilà, puisque ce qu'il y a aussi de formidable avec ce bouquin, c'est qu'il restitue à quel point aussi un film est une aventure collective, à quel point des gens peuvent s'engager dedans sans aucune idée, enfin sans aucune arrière-pensée par rapport au fait que ça va pouvoir devenir. Et effectivement, tous les gens qui parlent aujourd'hui, qui sont parfois étonnés que Melvin vienne les interroger là-dessus des années après, parce que c'est pas forcément ceux qui étaient tout qu'on revoit, enfin l'équipe de premier plan. Justement, ça remet ça aussi au centre d'un film qui est aussi tellement lié à de la démerde, du système D, et avec il y a quelque chose de l'essence du cinéma. Et en fait, cette entreprise qui a mené Melvin avec ce bouquin, ça le restitue complètement, c'est-à-dire à quel point ça a été aussi un travail de petites mains, un travail de gens qui étaient là, qui se sont décarcassés. Et ça ne vaut pas sans doute la peine de le faire sur tous les films. Il a vraiment bien choisi le film sur lequel le faire. Et je pense que je ne me serais pas jeté sur un autre bouquin, sur quelque chose de moins, qui me parle moins. Mais donc non, c'est une bonne chose que ce livre existe. Et puis effectivement, on peut y revenir. Puis voilà, ça devient une bible aussi, mais non, c'est super qu'il ait fait ça. Donc et puis bon, bah le bouquin en termes de maquette, moi j'adore ce que fait Melvin en termes de maquette, voilà, le seul truc qu'il a contre lui, c'est son poids. voilà c'est son poids, c'est qu'effectivement il faut c'est du weight shaming. Moi ce que je leur dis, c'est que s'il le réédite, il faut qu'il prenne un papier un peu plus léger, un peu plus aéré.
Il veut pas.
Non, mais le même papier, mais avec une aussi belle main, mais juste qui fera peut-être 20% de moins. Et puis aussi, voilà, je pense que c'est possible. Bon, il y a évidemment les bouquins sur la suite. Il y a un projet de réédition du premier. Ben voilà, il n'en a pas terminé aussi en plus, donc c'est pas fini, quoi.
Mais il bosse pas tellement, tu vois. Aujourd'hui, il est là sur la convention.
Après c'est son problème. Mais ça, c'est que la preuve. Je veux dire, vraiment, c'est une grosse feignasse, quoi. mais donc non. Moi, c'est effectivement sur les bouquins de ces derniers mois, de l'année dernière, c'est le plus incontournable qu'il y ait eu, et que c'est celui que j'ai envie de recommander, quoi.
Voilà. Et puis vous pouvez retrouver, que ce soit chez En attendant Godard ou dans Le cinéma est mort, hein, des émissions bien évidemment avec Melvin qui évoque tout son travail. Merci Guillaume.
Je me suis pris.
Le film le plus important depuis le début du cinématographe vient d'être projeté, et il a été produit par les indépendants. C'est ça la magie, c'est ça le style. Rien n'arrêtera plus cette profession. Le temps des petites salles à 5 cents est révolu. Un jour nouveau vient de naître. L'époque des palais du cinéma, importante production, immense salle, 6 bobines, 8 bobines. Rien que cette chose, ce soir vous avez eu 15 bobines.
12.
Vous avez compris? Je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que Griffith est un génie, mais il est un peu cinglé.
Il est un peu dingue.
Il est un peu dingue, tu l'as dit.
Ariane, cette histoire d'Indien dont vous souliez tout le monde, ça c'est combien de bobines?
L'enfant métis, c'est
4 ou 5 bobines, pourquoi?
Faites-en 7. Restez pas à la planter, voyons, c'est le commencement du monde.
Monsieur Cobb, vous ne voyez pas.
C'est incroyable le monde que le cinéma a à dire. Qu'il comprend parfois pas notre langue. Mais ça ne fait rien parce que l'image à elle seule est un langage que tout le monde comprend. Comme la musique. Ça le touche. Si vous faites vraiment de bons films, soyez persuadés que vous leur apporterez, outre l'évasion et le rêve, une ouverture sur le monde et les autres. Qu'ils n'oublieront jamais.
Et là, on est monté à l'étage du cinéma Arvor. Nous sommes au niveau 2, plutôt réservé aux auteurs de livres sur le cinéma. Et je suis en compagnie de Jérôme Ouibon. Alors Jérôme Ouibon, si vous êtes fan de notre travail du cinéma est mort, vous le connaissez parce qu'on a déjà enregistré une émission avec lui. Et de toute façon, si vous êtes adepte de cinéma et aussi de support physique, c'est quelqu'un dont vous avez déjà croisé le nom, parce que c'est quelqu'un dont vous allez retrouver le nom très souvent dans beaucoup de bonus DVD et aussi de documentaires en tant que réalisateur, mais aussi en tant que archéologue, on va dire, du cinéma, parce que c'est quand même quelqu'un qui déniche depuis de nombreuses années, même si c'était le cas dans un site internet qu'il tenait il y a 20 ans, des sortes d'archives absolument précieuses qui, voilà, que absolument formidables. Mais ça, on avait déjà évoqué ça dans une émission consacrée à sa collection qu'il a chez Studio Canal, Nos années 70 et maintenant Nos années 80. Donc on vous renvoie vers cette émission-là. Et Jérôme, il a décidé de nous parler. Alors, c'est le titre, tu l'as, parce que tu viens de le lire, c'est
Les aventures de Terence Hill et Bud Spencer, donc un livre écrit par Philippe Lombard sur cette aventure un peu incroyable de ce duo qui a bercé notre enfance quand on est âgé comme moi, dans les années 70-80. Et voilà, qui est un peu un ovni, hein, quand on lit le livre, on comprend qu'ils n'étaient pas censés se rencontrer, en fait. Donc, et ça va se faire, et ça va donner les Trinitas, deux Trinitas, plus un paquet de films dans les années 70 et 80. Une autre idée du cinéma populaire, en fait, hein, donc, qui a disparu, pour le coup. Et c'est vrai que là, le livre les remet en lumière, et surtout comment ils se sont rencontrés, comment certains films se sont matérialisés. Les films qu'ils ont fait en solo, chacun de leur côté, c'était des acteurs très très populaires en Europe et aussi en France. Ils le sont encore restés en Allemagne, et en France on les avait un peu oubliés. Et c'est vrai que là, le livre montre leur parcours, mais aussi une autre idée de ce qu'était le cinéma populaire des années 70. Donc c'est tout ce contexte qui est vraiment intéressant, quoi. Comment on pouvait produire ça, comment le cinéma européen avait ses propres vedettes dans les années 70. Il y avait Belmondo, il y avait Delon, il y avait Bud Spencer et Terence Hill, en marge du cinéma hollywoodien, en fait, qui était plutôt dans le nouvel Hollywood. Tout ça se répond, en fait. Quand il y a un manque d'un côté, ce qui était à Hollywood, il y avait un... Voilà,
il y avait moins de divertissement.
Avant Star Wars, il y avait le nouvel Hollywood et des nouveaux acteurs, Dustin Hoffman, Pacino, tout ce qu'on connaît du nouvel Hollywood. Et en Europe, on était encore sur des énormes vedettes populaires, ce qui était Cal Belmondo, de Funès, hein, qui marchait très bien aussi en Allemagne. Et il y avait Bud Spencer et Terence Hill, des acteurs italiens dont les gens pensaient souvent qu'ils étaient américains, pour le coup, avec leur pseudo. Il y a eu des faux Terence Hill et Bud Spencer, donc il y a eu 5 films avec un duo qui ressemblait à Bud Spencer et Terence Hill. Mais c'est dingue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on ferait plus aujourd'hui. Et moi, le livre m'a emballé de leur histoire à eux et de l'histoire du cinéma populaire européen, en fait. Ça raconte ça. Voilà, je suis un peu long, mais franchement, j'ai lu ça comme ça. Il n'y avait jamais rien eu sur ce duo. Il y a plein de photos délirantes de l'époque, des photos de tournage et tout ça. Et ça va jusqu'à la fin, lors d'un dernier film, Petit Papa Baston, qu'on a tous oublié parce que quand ça sort, personne n'y va, en fait, parce qu'on est passé à autre chose. Le cinéma est passé à autre chose, et nous aussi. Et donc, mais ça se raconte, quoi. Donc, moi, ça m'a vraiment emballé. Et le livre est sorti chez Pulse Édition, en vidéo, je ne sais plus. Achetez-en plein.
Et à noter aussi que notre camarade de chez Rimini, lui, va sortir en tout cas des éditions, parce qu'au final, c'est plutôt aussi des films un peu délaissés par le support physique, quelque part, en tout cas depuis quelques années.
Ouais, ça revient là. Il y a les deux Trinitas qui sont sortis chez Rimini, en version intégrale. En plus, les films étaient souvent massacrés dans les salles et tout ça, donc, et des masters vidéo qui n'étaient pas terribles. Là, c'est vrai qu'avec le Blu-ray et tout ça, il y a un appel d'air, et donc c'est vraiment super que ces trucs-là, et je pense que ça marche très bien. Rémini m'a dit que franchement ça c'était parti très bien. Les films sont bien aussi, donc ils ont pas fait que des chefs-d'œuvre, Bud Spencer et Terence Hill, mais les deux Trinitas se tiennent plutôt bien, et autant Sergio Leone détestait ces films-là et ce que ça véhiculait, quoi. Je crois qu'il parlait de cinéma d'attardé. Enfin,
c'était mes fils dégénérés. Mes enfants dégénérés.
Et c'est pour ça qu'il va faire Mon nom et personne pour reprendre la main et arrêter tout ça, en fait. Mais voilà, non, ce qui est intéressant aussi, c'est les deux Trinitas, c'est des westerns. Et eux vont réussir la transition vers des films contemporains. De super flics de Miami. Voilà. Voilà, les deux super flics. Et voilà, donc Père et Impère et tous ces trucs-là, cul et chemise. Les titres n'étaient pas super glorieux, mais voilà, il y avait
des. C'est sûr qu'en italien, ça donne mieux.
Ouais, c'est ça, mais il y avait pour des enfants de 10 ans, il y avait ce côté il y a de la bagarre, il y a des baffes, c'était bon enfant. Comme ce qu'a fait un peu Jackie Chan, un peu plus spectaculaire, mais ce côté bon enfant, de voilà, sans violence exacerbée, on n'est pas chez Scorsese, quoi. Donc, c'était pas mal pour un public on aimait bien, il y a de la bagarre, quoi, mais personne ne se fait mal, en fait. Donc, voilà, donc, un bon, sans être trop nostalgique, c'est assez fun quand même. Donc, ces trucs-là, voilà.
Super, Jérôme, merci beaucoup pour cette remise en lumière de Bud Spencer et Terence Hill. À tout vite.
Ok, pour la dernière fois, pose ces lettres sur la table.
Si Laszlo et la cause sont si importantes pour toi, rien ne pourra t'arrêter. Très bien, je vais te faciliter la tâche. Vas-y, tire, tu me rendrais service.
N'oublie pas, cette arme est pointée sur ta queue.
Oh, c'est l'endroit le moins vulnérable chez moi.
Nom de Dieu, combien de fois on a pu voir ce film?
La pire réplique de Casablanca? Eh bien, un précédent a été rompu. Un précédent a été rompu? Comment peut-on rompre un foutu précédent? Ils les trouvent où? Leur dialoguiste, à Hollywood. En tout cas, Dieu que j'adore, Claude Rains. Ce film lui doit absolument tout.
C'est sûr.
Tu sais pourquoi il est si bon? Il a un rôle de premier plan et il est petit, ce qui prouve que l'un n'empêche pas l'autre. Et j'adore ça quand il dit à Ilsa, mademoiselle, Rick est le genre d'homme. Si j'étais une femme, et si je n'étais pas dans le coin, dont je tomberais forcément amoureux. Réfléchis-y un peu. Avec qui son personnage termine à la fin du film? Qui voit-on s'en aller bras dessus, bras dessous et disparaître dans le brouillard?
Tu insinues que Rick est le capitaine Renault?
Que crois-tu qu'il se passe dans la garnison des forces françaises libres à Brazzaville? C'est une scène qu'ils ne peuvent pas nous montrer. Ok, la meilleure réplique de Casablanca?
Personne ne m'avait jamais aimé
à ce point. N'est-ce pas magnifique? Oui, petit mot. Personne ne m'avait jamais aimé à ce point. Et c'est vrai, qui a déjà été assez aimé? Qui a seulement été aimé? À moitié assez. Tu me fais un shot.
Toujours à la convention cinéphile au cinéma Arvor, et j'ai le plaisir et la joie de retrouver Étienne Caloret, patron, taulier, grand Manitou du cinéma est mort, sans qui Antonin ne serait rien. Merci beaucoup Étienne d'avoir consacré un peu de ton temps précieux pour nous rejoindre. Et Étienne, en bon cinéphile aguerri et quelqu'un de fidèle à ses convictions, tu voulais nous parler d'une cinéaste et d'un film dont vous aviez déjà parlé il y a quasiment 20 ans dans votre émission, donc Dans ma peau de Marina Devane.
Bonjour Thomas, merci. C'est un plaisir et un immense honneur d'être invité chez vous. Oui, Dans ma peau, qui vient de ressortir dans une édition avec du 4K, avec du Blu-ray chez Pulse. On arrive sur le stand, puisqu'on est toujours à la convention cinéphile.
Nous déambulons.
Hein. Nous déambulons. Donc dans un beau coffret, avec, comme je disais, donc une version restaurée en 4K. Et j'ai juste fait le curieux un petit peu pour voir les bonus. Il me semble que ça reprend au moins tous les bonus qu'il pouvait y avoir sur le DVD, qui étaient assez nombreux. On a du court-métrage, on a le commentaire audio de Marina Devane, notamment. Donc voilà, c'est un objet assez fourni. Et c'est vrai que Marina Devane, elle est un peu oubliée aujourd'hui, malheureusement. Elle a fait 4 films. Son dernier, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 10 ans au moins.
Il y a un film de Marina Devane qui s'apprête à sortir, qui est fini, qui s'appelle, me semble-t-il, Ceci est ma nudité, qui est un film qui pourrait connaître une sortie sale.
Ouais, après, elle avait arrêté de faire des films pendant quelques années, elle a quand même écrit des livres. Dans ma peau, moi en tout cas, c'est un film qui restera important pour moi. J'ai jamais autant parlé devant ma télévision que quand j'ai découvert Dans ma peau. J'étais en train de hurler pour lui demander d'arrêter ce qu'elle était en train de faire, ça me terrifiait.
C'est assez terrible ce qui se passe.
C'est terrifiant. Je laisse les gens découvrir, hein, si vous n'avez pas vu Dans ma peau et que vous voulez voir un objet qui a un petit peu... Qui prend encore, comme on dit. Je vous invite à faire les curieux, à aller voir Dans ma peau. Et moi, je suis ravi, voilà, que son travail, c'est son premier long métrage. S'il pouvait y avoir le même traitement pour les suivants, qui sont vraiment aussi intéressants, ils sont moins choc, on va dire, que Dans ma peau.
C'est toujours étonnant.
c'est toujours étonnant. Il y a toujours des choses extrêmement réussies dans tous ces films. Donc moi, c'est un plaisir et je trouve ça merveilleux que quelqu'un ait fait ce travail-là, en sachant qu'en effet, c'est un pari un peu risqué aussi, puisqu'aujourd'hui, elle rentre pas sur une carte du cinéma français ou autre, d'ailleurs, Marina Devane, et elle a été un peu oubliée, quoi. Antonin voulait réagir.
Ouais, non, c'est juste, c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'à ce moment, le body horror est plutôt un genre à la mode, avec notamment Ducournau ou Coralie Farja et tout ça. Et c'est assez, bon, c'est très très bien que ça sorte à peu près de façon concomitante, mais c'est un peu dommage le manque de résonance que ça a pu avoir, parce que bah, y a, particulièrement chez les jeunes que je connais très bien pour fréquenter des jeunes genre Thomas, je sais que le body horror c'est quelque chose de bah ouais, il y a une expérience qui est recherchée en tout cas au cinéma.
Excuse me, do you like Alain Delon?
Oh sure, he's very handsome.
And do you saw some movie of René Vidal?
Yes, on tape.
And do you like them?
Yes, I looked at the images and it was very interesting. The images were very strong. Yeah, I liked it. Why are you laughing?
Because you're being polite.
Oh, no, I'm not.
It's a boring cinema. It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know? For the elite public. Real public, like a strong director, like, I don't know, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, you know Jean-Claude Van Damme? It's like Kung Fu, like John Woo on new film, you know? And René Vidal, it's not like this, it's a creep.
Toujours à la convention cinéphile au cinéma Larvor, hein, organisée par 97mm, nous sommes en compagnie d'Erwan, associé de Thomas, hein, dans leur émission, c'est comme ça que vous dites, hein, de radio, hein, En attendant Godard, le cadoret d'En attendant Godard, merci d'être avec nous. De quoi tu vas nous causer, toi ?
Eh bien, de deux jolis films que j'ai donc acquis récemment aujourd'hui à la convention. Alors, on va commencer par...
T'as été sur le stand de Carlotta, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement. Alors, on va commencer par le haut du panier. On va commencer par La chair et le sang de Paul Verhoeven, qui est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais dont j'ai un souvenir assez marquant. Notamment, j'ai le souvenir de dents avec de gens avec des dentitions particulièrement improbables, et notamment d'une scène où on voit Jennifer Jason Leigh toute nue. Qui est une scène en plus de, qui est une scène de pressouillure qui est particulièrement ambiguë, où le, comment dire, le sublime se mélange au glauque, et où je me souviens de m'être dit, Verhoeven, t'es quand même fortiche pour me faire ressentir plein de trucs différents voilà, en même temps. Et voilà, moi j'ai un souvenir d'un film, j'ai souvenir que c'est un des rares films sur le Moyen-Âge que j'ai vu où je me suis dit, tiens, ça m'a l'air crédible. Voilà.
Il y a celui-là et le septième saut, quoi.
Voilà, et voilà, et Sacré Graal des Monty
Python. Oui, c'est vrai.
Voilà. Mais voilà, mais je me suis dit ça, ouais, je me suis dit, ouais, j'y croyais, quoi. J'y croyais au Moyen-Âge, voilà, aux sales gueules, voilà, comment, et à Rutger Hauer qui est génial. Voilà. Donc voilà, donc j'ai hâte de le revoir. Ça, voilà, c'est un plaisir toujours renouvelé, l'ami Verhoeven. Et puis, alors le deuxième, alors là, c'est un peu plus.
Alors on a changé d'éditeur.
Voilà, là, c'est un peu plus un plaisir coupable. Voilà, puisque c'est, voilà, puisque c'est les rats de Manhattan de cette horrible tâcheron de Bruno Mattei, mais qui est tellement drôle à regarder. Et j'avais déjà acquis il y a quelque temps Virus Cannibal. Voilà, ça, voilà, sachant que voilà, j'en ai quelques-uns, j'ai L'autre enfer aussi chez moi. Voilà, j'ai une espèce de micro-collection Bruno Mattei que je ne regarde pas tous les jours, mais quand il y a des copains qui veulent voir un mauvais film rigolo, et ben je leur propose souvent du Bruno Mattei. Et là, ben, du coup, Les Rats de Manhattan, ben, c'est super drôle. Film post-apo, voilà, avec une bande de débilos qui se retrouvent enfermés dans. Trois pièces à peu près, hein, la taille du studio, avec des rats que des assistants, que des accessoiristes leur jettent au visage. voilà, ce qui évidemment donne des scènes extrêmement drôles à regarder de préférence en VF, parce que la VF est de toute beauté également. Voilà, donc voilà, deux salles, deux ambiances, comme tu disais tout à l'heure, Thomas. Mais voilà, je pense deux séances qui vont être très cool à regarder chez soi.
Merci beaucoup, Erwan.
Mademoiselle, après vous.
Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ?
Non, c'est rien, c'est rien. Ça. Il y a tout ce que tu veux. J'ai pris du pop-corn. Et si tu préfères, il y a les tomates cerises.
Oh, elles sont grosses.
Merci. C'est gros blanc.
Pas mal, c'est vrai. Ne me dis pas que tu n'as pas fini.
J'adore Ethan Hawke.
Toujours à la convention cinéphile de 87 mm au cinéma Arvor, 6e édition. Et j'ai toujours le plaisir et la joie d'être avec le directeur artistique le plus sexy de la West Coast, comme on dit, donc Antonin Moreau, qui en plus nous fait l'honneur et la décence de n'avoir ouvert que deux boutons de sa chemise aujourd'hui. Alors Antonin, comment ça va ?
Écoute, ça va plutôt bien. Merci de ce panégyrique, comme on dit, ça se dit ça ?
Exactement, dis, voilà. Ça se dit quand on a des lettres.
Et ben voilà, j'ai des lettres, je dis merci pour ce panégyrique, merci Thomas.
Et d'ailleurs, excusez-moi, c'est l'embrouille, c'est l'émotion. Antonin, tu es accompagné de nul autre que Étienne Cadoret. Bonjour Étienne.
Bonjour
ravi
Thomas.
De vous
Thomas, c'est bien
c'est
ça.
C'est ça, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous voir. Je vous trouve très en forme aujourd'hui.
Mais oui, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai envie de croquer la vie à pleines dents.
Ah, et ça, ça nous fait plaisir.
Bah, tu nous demandes de quoi on veut parler,
ouais,
tout
ouais.
ça.
c'est bon.
Allez, on arrive sur la fin.
On va couper, hein. On verra ça au montage. Et alors, les garçons, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un livre, une fois de plus, de lettres, d'un livre de cinéma autour de Walter Hill.
Bah, tout à fait. Ça fait partie, en tout cas, des invités de la convention. On a pu entendre tout à l'heure Julien Pavajou, aka Monsieur Bobine, qui venait parler de son bouquin sur James Cameron, mais on a aussi invité Thomas Revoy, voilà, parce que je sors de la présentation et on m'a houspillé pour avoir mal prononcé.
Ah oui, c'est scandaleux, tu présentes quelqu'un,
mais
tu connais.
En vrai, voilà, c'est Thomas Revoy, voilà. Donc Thomas Revoy, que je suis très content d'avoir pu inviter, qui est quelqu'un qu'on connaît de loin pour son travail d'entretien avec beaucoup de gens du cinéma américain, pas exclusivement, mais beaucoup.
Oui, beaucoup.
À travers sa revue Ciné Bazar.
Voilà, c'est ça.
Et qui a consacré dernièrement chez Rouge Profond un livre d'entretien à Walter Hill. Et c'est un cinéaste, moi, que j'affectionne particulièrement, sans le porter nu, tout ça. C'est vraiment le type de cinéaste qui m'inspire une profonde sympathie pour la qualité voilà, un peu artisanale et puis solide de ses films, et un petit peu aussi à contre-courant à chaque fois des différentes décennies qu'il a pu traverser, 70, 80 ou 90. Et voilà, c'est un livre d'entretien hyper touchant, je trouve, assez devant un bonhomme qui vraiment dans une sorte de lignée de vieux briscards hollywoodiens un peu taiseux, mais qui ont quand même une sorte de gourmandise à raconter des histoires. On voit que c'est un grand narrateur, et je trouve le bouquin riche d'enseignements et surtout assez émouvant par aussi un des choix que Thomas a pu faire d'avoir réussi déjà à trouver, d'aller recueillir des témoignages de différents collaborateurs plus ou moins proches de Walter Hill, au nombre desquels on peut trouver quand même des gens pas des moindres comme Michael Mann ou Sigourney Weaver. Je sais que moi, le texte que Michael Mann a fourni à Thomas à propos de son ami Walter Hill est particulièrement émouvant quand même. On sent vraiment un attachement, une admiration mutuelle, ça. Donc voilà, je trouve que c'est un bouquin que j'ai dévoré vraiment avec plaisir.
Je suis d'accord avec toi. Ma petite différence, que Walter Hill, je pense que je suis un peu plus attaché à lui que toi. C'est un cinéaste qui m'accompagne depuis toujours, en fait. Mais je suis d'accord par contre vraiment sur les entretiens, parce qu'il a été rencontré plusieurs fois. Il revient du coup avec Walter Hill sur sa carrière de scénariste, justement. C'est un grand, c'est un type qui a envie de raconter des histoires, qui les raconte bien, de producteur, de réalisateur, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on a, moi j'étais bien en fait en lisant ce bouquin, et j'avais envie même de, je sentais la détente entre guillemets un petit peu pouvait s'installer entre les deux, ce qui fait que ça a libéré la parole de Walter Hill. Et en lisant, j'aimerais bien me poser en fait avec le bonhomme et l'écouter causer, quoi. Il y a un petit peu Père Castor, raconte-moi les histoires au coin du feu, mais en effet, il a pas langue dans sa poche. C'est un truc qui lui plaît pas, il le dit, mais avec une espèce de sympathie en fait très communicative. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à lire. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est un truc, Thomas me l'a dit, hein, on lui a reproché un petit goût de trop peu. Mais c'est vrai que moi, j'avais envie de plus. Et en même temps, je me dis, voilà, ce dont il ne parle pas, ça raconte aussi des choses. Et là-dedans, il n'y a rien en trop, en tout cas, dans le bouquin, quoi. Et ça fait plutôt plaisir aussi de... Voilà. c'est la matière qu'il a, mais moi, elle m'a beaucoup satisfait, quoi.
Bien, merci beaucoup, messieurs. Donc, Walter Hill,
la dimension Walter
Hill de Thomas Revoy, donc chez Rouge Profond, livre d'entretien. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Thomas.
Merci, Thomas.
3000. Vous m'avez entendu? J'en ai fait imprimer 3000 de son roman de malheur. Encre, papier, reliure, imprimerie. J'en suis déjà à 1500 francs. 1500 francs, vous m'entendez?
Mais le livre est bon, Doria, il va se vendre. Les premières critiques sont même excellentes.
En parlons-en des critiques. Vous faites payer 150 francs la bonne critique maintenant? Mais on va aller jusqu'où comme ça?
Faut bien vivre.
150 francs!
Là. Une bonne critique, ça se fait.
Nous continuons nos petites déambulations et nous sommes maintenant avec Kevin, donc qui est numéro 2 de l'Arvor, peut-être bientôt le calife à la place du calife, c'est son rêve en tout cas, on lui le souhaite. Hein. Et donc, en bonne petite boutiquier du cinéma, Kevin, tu veux nous parler de quelque chose d'importance, de nichon, puisque tu veux nous parler d'un livre.
Oui, je viens parler d'un bouquin qui a été écrit par un camarade de master ici présent, qui nous salue.
Quel copinage éhonté.
Oui, voilà, je fais un petit instant promo. C'est le bouquin sur le réalisateur Russ Meyer, Sexploitation et Controverse américaine. Aux éditions L'Harmattan, avec, comme vous pouvez le voir,
c'est la radio.
Pas du tout d'illustration, parce qu'il y a eu des petits problèmes de droit pour obtenir quelques images. Donc, il n'y aura pas de nichon, donc il faudra juste les imaginer en lisant le bouquin. Donc un bouquin très intéressant qui a été écrit après un mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui raconte au fait toute l'histoire des formes et de l'esthétique de Rhys Meyer, etc. Oui, bah, sans jeu de mots, hein, bien entendu.
Après, Rhys Meyer, cinéaste d'exploitation plutôt dans les films de bikers et les films de femmes à forte poitrine, on va dire.
C'est ça, ouais. Donc,
sous cet apparat un peu vulgaire et en fait plus que ça, Kevin, n'est-ce pas?
Ah mais bien entendu, on est là pour la baston, pour les femmes puissantes qui tabassent des messieurs méchants. Et le film qui est notamment le plus reconnu, hein, c'est Faster Pussycat Kill Kill, et que je rêverais de voir en salle, notamment plein d'autres films. Mais il y en a un en tout cas dont je me souviens très bien, c'est je crois Mega Vixen. Une scène d'accouplement où la jeune dame se retrouve à étirer ses pieds avec un super ajout sonore du Sieg Heil du Troisième Reich. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Donc oui, Rhys Meyer, hein, c'est comme dans le bouquin le dit, hein, controverse et provocation. Et tout y conti. Quoi.
Bien. Merci beaucoup, Kevin.
De rien, oui. Merci.
Vous allez mieux? J'ai encore un peu mal, mais ça va. Bah, raison de plus pour prendre un petit peu de plaisir avec le génial Buster Keaton.
Alors, projectionniste dans un cinéma, il rêve de pénétrer non pas sur l'écran, mais dans l'écran.
Et très vite, il est happé par la machine cinéma, et surtout par le montage. Où est le monde et où est son monde ?
Alors ce sont des courses, des acrobaties absolument incroyables, mais calculées mathématiquement pour échapper au jeu d'éléments disparates et en plus qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Leur fonction est de mettre en fuite quelque chose ou quelqu'un.
Il suffit de regarder. Le génie de Keaton consiste à filmer des lignes de fuite. Et filmer graphiquement, mais surtout clairement. Et des fuites actives, et ça te concerne.
Eh oui, parce que c'est le triomphe du deux roues. Que de frayeur, hein.
Et que de jouissance aussi, hein. C'est à ça que tu aspires, hein. Être transporté, emporté, sans résistance. À la fois l'intensité de l'effroi et la force du désir.
Ce sera l'objet de notre dernière séance.
La convention cinéphile, c'est aussi l'occasion de croiser des jeunes étudiants portant, s'engageant en tout cas dans des initiatives locales et notamment radiophoniques. Je suis en présence de Thomas Gombeau, qui, avec certains de ses camarades de promo, a lancé une émission de radio étudiante sur C-Lab, intitulée « En attendant Godard ». Et c'est aussi important au Cinéma MR de donner la parole aux jeunes. Ça nous permet, nous aussi, de garder une certaine fraîcheur et tout ça, de garder l'esprit ouvert. Donc je suis ravi, Thomas, que tu puisses nous parler de tes goûts de jeune. Qu'est-ce que c'est pour un millénial la cinéphilie aujourd'hui?
Merci beaucoup Antonin de m'accueillir dans votre émission qui est un peu un modèle, même si je prépare un article en ce moment, une certaine histoire de la radio française qui, j'espère, ne vous vexera pas trop, mais elle tire à boulet rouge et elle égratine certaines idées préconçues de la vieille garde de la radio et de la critique en France.
On emploie toujours l'expression tirer à boulet rouge.
Exactement,
chez
okay, on tire à boulet rouge chez nous, en tout cas chez les jeunes, c'est revenu à la mode, okay. CB. Donc moi, comme je suis un jeune, donc je vous parle aussi d'un jeune cinéaste, Luis Buñuel, donc cinéaste espagnol. Et là, en l'occurrence, avec deux de ses films milieu des années 50, il y a un de ses derniers de la période mexicaine, La vie criminelle de Archibald de la Cruz, et un de ses premiers lors de son retour en Europe, qui est cela s'appelle L'Aurore, donc c'est 55 et 56. La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, c'est vraiment sur l'histoire d'un tueur en série qui est doté d'une machine qui lui donne le pouvoir de tuer qui il a envie de buter, et donc en fait il décide de tuer chaque femme qu'il aimera, et donc c'est toute une errance onirique et puis métaphysique assez commune chez Buñuel, mais là il le fait d'une manière encore plus noire et plus désespérée que bien souvent, où il y avait justement le rêve maintenait un petit peu parfois l'horreur concrète de côté, alors que dans celui-là il y plonge vraiment, et le film est terrassant de beauté et en même temps un film assez terrifiant sur ce que ça raconte sur la nature masculine, on va dire. Et donc le deuxième, que j'ai pas vu depuis longtemps pour le coup et que je me rappelle un peu moins, mais j'ai très envie de le revoir, donc cela s'appelle L'Aurore, où il retourne en France pour faire le film avec Georges Marchal et Lucia Bossé, qui est plus un genre de mélodrame qui se passe en Corse, comme quoi quand les films en Corse ne sont pas faits par des Corses, cela donne plutôt des belles choses.
Oh.
Je ne dis pas ça pour Eric Fraticelli et les films qu'il fait avec Didier Bourdon, hein, par exemple. Mais, non, mais en tout cas, bref, parce que Jean-Pierre Vasseur de Rimini parle aussi d'une édition de Elle qui est ressortie il n'y a pas longtemps. Buñuel, c'est un cinéaste dont qui est toujours considéré comme un grand cinéaste, mais je trouve qu'on ne parle jamais assez de Luis Buñuel, qui est comme un cinéaste qui a une carrière absolument prodigieuse, qui ne perd jamais en qualité, que ce soit au Mexique, en Espagne ou sur sa fin de carrière en France, où il fait probablement ce que je pense sont ses plus beaux films. C'est un vrai camarade, Luis Buñuel, c'est un anticlérical, c'est un anarchiste, c'est un pur metteur en scène qui a fait à la fois des trucs expérimentaux extrêmement marquants et qui a aussi toute une période au début, au milieu des années 50, où il fait des purs films classiques, où en gros il dit je peux vous montrer que je fais du romanesque, il le fait mieux que tout le monde, il dit mais bon, finalement, c'est trop facile à faire. Je préfère aller retourner des meufs à poil qui sont en train de chier sur un bidet au milieu de la forêt, quoi. En gros. Ce qui donne quand même un garçon absolument merveilleux. Et ses bouquins, son journal et son autobiographie sont parmi les meilleurs bouquins de cinéma qui existent, tellement à quel point c'est prodigieux. Et donc, voyez et revoyez le cinéma de Luis Buñuel. C'est formidable.
Moi, je suis soufflé par la culture de Thomas, donc étudiant en art du spectacle, Club Son Cinéma, avec qui il a pris une option en civilisation hispanophone et civilisation latine, oui. Et membre du Parti Pirate. Merci beaucoup, Thomas.
Voilà. Tenez-vous par les épaules, tendez les bras. Voilà. Voilà, exactement. Bon. Attention, le petit oiseau va s'envoler. Le cinéma, c'est...
dégueulasse!
Je ne sais pas de quoi on parle, Thomas. Alors, on est toujours au cœur du mal de la convention cinéphile, avec en présence de Stéphane Bouillet du Chat qui fume, qu'on est très content d'avoir cette année. Ça fait longtemps que l'équipe de 97 mm cherche à avoir le Chat qui fume, qui est quand même hyper important en termes d'édition DVD et Blu-ray en France, important pour ses éditions à lui, et puis aussi pour les autres éditeurs qu'il peut accompagner. Donc, merci Stéphane d'être là et de quoi quoi tu vas nous parler ?
Eh bien, comme effectivement, j'accompagne des éditeurs un peu pour se développer, pour trouver des films, pour les pressages et tout ça, je vais parler de MDC Films qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il travaille. Il a un boulot à côté, comme beaucoup d'éditeurs, des jeunes éditeurs ont, comme Guillaume de Badlands, Gwendal d'Intersection, ont des boulots à côté, parce que voilà, il faut bien vivre. Et donc, c'est un jeune éditeur, donc MDC Films, donc Kevin Catan, qui à la base était un client de Chat qui fume. Et qui a dit, à un moment donné, m'a dit, écoute, voilà, je voudrais bien me lancer dans l'édition vidéo. Je fais, mec, bonne chance, hein, parce que tu vas morfler. Et donc, il s'est lancé. Et alors, comme tous les jeunes éditeurs, il a voulu faire des choses. Toujours, ils veulent toujours mettre beaucoup de choses dans leur édition. Et moi, mon rôle, c'est de leur dire, calmez-vous un peu, les mecs, là, vous allez vous planter, vous dépensez trop d'argent. Et donc, voilà, donc c'est un accompagnement. Et donc, il a sorti pas mal de films américains, ou même, dernièrement, donc, des films français, comme La Morsure. Et surtout Candy Chat de Bustillo et Maury, donc, qui était un film en fin de compte qui était sorti au moment du Covid, mais qui n'est pas sorti au cinéma à cause du Covid. Mmh. Et donc le film s'est gamellé parce qu'il n'est pas sorti. Donc il s'est retrouvé directement en DVD et en SVOD, VOD, ce qui n'est pas la meilleure chose quand vous sortez un film. Et qui est un film vraiment qui est très bien maîtrisé. Bon, si on aime ce type de film d'horreur, et voilà, Candy Chat. Et c'est, par contre, c'est très bien filmé. Alors, c'est un peu un scénario un peu bateau, quoi, d'une créature voilà, mythologique qui revient pour hanter les jeunes femmes et tout. Mais il y a un côté un peu... ça se passe en banlieue parisienne. Et donc le mélange un peu de cette créature avec cette banlieue parisienne, avec des jeunes filles et tout, c'est un film vraiment qui a de la gueule, qui est très bien filmé, parce que le duo Bustillo et Maury, c'est très bien filmé. Mm. Et en plus, ce sont les gens vraiment qui sont très sympathiques. Bustillo a bossé à Mad Movies. Voilà, et Julien Maurice, donc ils se connaissent depuis 20 ans. C'est vraiment deux potes, ils se connaissent par cœur. Et donc, en plus, ils ont fait des commentaires audio sur le... qui ont été filmés chez moi, d'ailleurs, les commentaires audio. Ils ont fait des interviews ensemble, vraiment. Pendant une heure, ils parlent du film, du tournage du film, comment ça s'est passé, de la sortie du film. Ça fait partie des petits films français de... Comme le but d'MDC Films est de montrer un peu des petits films français de genre qui sont un peu plantés, comme La Morsure, effectivement, ou Candy Chat, et donc La Nuit a dévoré le monde aussi, des petits films d'horreur français qui, ont, malheureusement, n'ont pas peut-être trouvé leur public à 100%, mais qui méritent d'être redécouverts en vidéo, parce qu'il y a des talents en France, et on l'oublie souvent. Et c'est même dommage que ces gens-là aient du mal, ces jeunes réalisateurs-là. Bon, Bustillo Maury, ça va encore, mais le réalisateur de La Nuit a dévoré le monde, ou même La Morsure, ont vraiment du mal à trouver vraiment des financements pour les prochains titres et tout. Et donc, voilà, c'était surtout pour mettre en avant Candy Chat.
Mais c'est vrai que c'est hyper important, parce que moi, travaillant justement dans le cinéma d'art essai, on sait que sur les offres de cinéma de genre, il peut y avoir des chocs culturels sur un public typique à art essai, avoir du mal à aller sur des propositions de genre un peu plus audacieuses. Et le public des fois, quand c'est trop hauteur...
C'est passé un peu avec Grave et tout. Ce mélange de cinéma de genre et cinéma d'auteur peut faire fuir les fans de cinéma d'auteur ou des fans de cinéma de genre. Moi, je sais que Grave... Je ne peux pas supporter le film parce que je vois le cinéma de genre, mais je vois quand même que c'est plus du cinéma d'auteur.
Bien sûr.
Après, je sais que ça passait dans les Utopia et tout ça un peu partout en France. Mais après ça, voilà, du vrai cinéma de genre comme Candy Chat, par exemple, qui s'assume comme cinéma de genre et pas du tout de cinéma d'auteur. Là, c'est vraiment. Alors là, c'est directement plus dur parce que les salles de cinéma s'en foutent royalement.
C'est très bien du coup que les films puissent avoir en tout cas une deuxième ou troisième vie justement, en vidéo.
Les trois films étaient sortis qu'en DVD. Il n'y avait pas vraiment eu d'édition avec des bonus. Et donc là, les réalisateurs ont pris leur temps. Ils ont donné la version anglaise de La Nuit a dévoré le monde. Il y a pas mal d'interviews à chaque fois. Et donc, c'est vraiment remettre en valeur un peu notre patrimoine malgré tout, parce que dans quelques années, ça sera notre patrimoine. Et voilà, c'est important, je pense.
Super, merci beaucoup Stéphane.
Merci à vous.
Dis donc, alors comme ça tu vas voir les films européens ? Mais quel rapport avec le cinéma américain ?
Jacques m'a dit que c'était indispensable pour bien comprendre Hollywood. L'Europe a une grande influence sur l'Amérique.
Et il faut que je collationne tout ça ? Pour l'exposé de demain matin ? Et toi, au lieu de m'aider, tu te fais sortir pour aller voir quoi ? Des films français ? Avec un garçon qui habite le 16e ? Mais ça te va pas de jouer les nymphettes ?
Oh, avec tes préjugés, tu finiras vieille fille et agrégée.
Au cœur de l'espace rencontre du cinéma Arvor, toujours dans le cadre de la convention, la 6e convention cinéphile, avec un client régulier de la convention, Louis Lenis. Tu n'étais pas là l'année dernière, mais à la première édition à l'Arvor, tu étais là.
Oui.
Et Louis Lenis, tu es auteur là, dans ton dernier ouvrage chez le cinéma de genre italien, comme vous l'avez jamais entendu, parce que ta spécialité, c'est la musique des films italiens, particulièrement le rock progressif.
Musique de films italiens, rock progressif.
Tout à fait.
Tu as fait le tour.
Voilà, en tout cas, ça ne va pas être étonnant, en tout cas, dans ton choix, le film.
films, en tout cas, que tu as choisi. On est devant le stand des films du Camélia. Et bon, je te laisse présenter, mais évidemment, il s'agit de Profondo Rosso, hein, c'est ça, hein,
ouais.
C'est celui dont tu voulais parler, ouais. De Dario Argento.
Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de présenter Profondo Rosso. Apparemment, c'est une très belle édition. Je vais vous faire un petit peu de pub au passage. Alors, pourquoi j'ai choisi Profondo Rosso ? Bah, tout simplement parce que moi, j'ai fait un livre sur Gobelin, qui est le seul livre en français sur Gobelin, que Profondo Rosso, je le présente régulièrement en conférence, que c'est un film absolument extra. Enfin, voilà, je trouve que Argento a sûrement fait d'autres chefs-d'œuvre, mais je trouve que Profondo Rosso, si on met en parallèle le film, la musique... bon, il y a eu Suspiria après, évidemment, mais franchement, je trouve que c'est top. Voilà, Profondo Rosso, c'est mythique pour moi, donc je voulais absolument mettre ce HDR. Alors, moi, je suis pas technique du tout. HDR, ultra HD, 4K, Dolby.
Y a encore plus de pixels que d'habitude.
Voilà, donc je sais, c'est pas cher à ce prix-là. Non, dit la dame. Voilà, donc voilà, je suis vraiment très content. En plus, je trouve que la jaquette, c'est top. Franchement, je trouve que la jaquette, c'est top. Voilà, donc ça faisait plaisir de parler
merci.
De ça.
Merci. Non, super. C'est
ouais,
bon ouais.
Donc
merci.
N'oubliez pas qu'il y a un livre sur Gobelin
en
qui
plus
a été
de
écrit
ça.
Par Louis Denis.
Exactement. Voilà. Et si vous êtes fan d'Argento et puis de cinéma italien voilà. de façon générale, et évidemment, la musique est hyper importante dans les cinémas italiens, Morricone et d'autres évidemment, et les Gobelin.
Ouais.
Évidemment, vous avez la mine d'or dans les bouquins de Louis Denis chez les éditions Camion Blanc.
Merci.
Merci beaucoup, Louis.
Merci à vous.
Where were you the night Sister Carrie died just on dark?
Heard Sister Carrie drowned.
Who told you that?
Around here, everybody knows everything about everyone. I was here. Movie night.
What movie?
Aladdin. Catch up with him.
Catch you later.
Hey, you mob. I heard you like movies. If you can answer this quiz, I'll give you $2.30. All right. What's the movie with the blue genie and the magic flying carpet?
Aladdin. We watched it with Sam the other night.
Hey, too quick. All right. Make sure you share, yeah?
Bye.
Toujours à la convention cinéphile au cinéma Arvor organisée par l'association 97 mm et nous sommes justement avec un des représentants de l'association 97 mm mais aussi de Evi Prod, Yann donc, et tu voulais nous parler d'un film de Basil Derden, The Ship That Died of Shame.
The Ship That Died of Shame, le bateau qui mourut de honte. Alors je l'ai découvert l'année dernière, ce film-là. Petit film anglais des années 50, je pense, à peu près, si je ne dis pas trop de bêtises, 55, qui va parler d'un groupe de soldats qui défend l'Angleterre des Allemands. Ils ont un petit bateau, c'est un petit équipage, tout marche bien, ils sont fiers de leur bateau, leur bateau leur sauve la vie. Et après la guerre, ils n'ont plus de boulot. Donc il y en a un qui arrive à racheter le bateau et ils vont commencer à faire de la propagande, ils vont commencer à faire de la contrebande avec la France à travers la Manche. Ils vont reprendre leur vieux bateau, ils vont le réaménager avec des planques d'alcool. Ils vont reprendre tous les gars, puisque plus personne n'a de travail après la guerre. Et du coup, ils vont commencer à faire de l'alcool. Et puis après, ils vont commencer à faire un peu plus de contrebande, un peu plus dégueulasse. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme Christine de John Carpenter. C'est-à-dire que c'est le bateau qui va avoir honte de ce que font l'équipage. Et il va commencer à avoir des pannes, à ne pas bien réagir, etc. C'est un film aussi avec Richard Attenborough, que vous connaissez comme le Dr Hammond dans Jurassic Park. Et c'est un film que je recommande aussi à tous les fans de maquettes, parce que mine de rien, comme c'est un petit film anglais, il y a beaucoup de scènes avec les bateaux, avec des ports, tout est fait en maquette, c'est génial. Voilà, grosso modo, c'est petite surprise de l'année dernière, et il est vraiment chouette.
Et c'est sorti chez Tamassa, exactement.
C'est sorti chez Tamassa.
Merci beaucoup, Yann.
Ben, merci, les gars.
Merci. Tiens, mais celui-là. C'est Modugno. Tu sais, la poésie et moi, ça va pas tellement ensemble. Mais j'aime bien la musique. Celui-là, tu vas voir, il est très beau. Un peu mystique, mais oui, ça donne à penser. Ah, la musique. Tu vois, moi, je raffole de Modugno. Sa chanson, L'homme en frac, elle me fait mourir. Tu comprends, Bobby? Tu vas te dire, ça a l'air de rien, mais là-dedans, il y a tout. La solitude, l'incommunicabilité des êtres. Et puis l'autre truc qui est tellement à la mode en ce moment là. L'aliénation. Tu sais, comme dans les films d'Antonioni. T'as vu l'éclipse?
Ah oui, moi j'aime. Beaucoup.
Moi j'ai pas tout vu. J'ai dormi 2 heures. Bon metteur en scène, Antonioni. Il a une Flaminia Zagato, je te dis que ça, une fois sur le ruban de Terracina, il m'a gratté, mais alors les doigts dans le nez.
Oh ! Toujours en direct au premier niveau du cinéma Arvor pour la convention, la 6e convention cinéphile 97 mm, qui est toujours un bon moment où on va avoir plein d'éditeurs et tout. Et puis un ami qu'on voit, qu'on n'attend pas en tout cas à la convention cinéphile pour le voir, parce que c'est un éditeur rennais bien connu, Rimini, un acteur primordial en tout cas de l'édition de vidéos de répertoire en France. Et lui, il a choisi de nous parler d'une une édition d'un de ses collègues, les films du Camélia. Et c'est, vas-y, je te laisse, parce que je ne sais pas prononcer l'espagnol.
Alors moi non plus, mais c'est le film qui s'appelle Elle de Luis Buñuel. Alors ça va être simple pour vous le résumer. C'est, si vous avez en tête le film de Valérie Donzelli, De l'amour et les forêts, c'est à peu près cette histoire-là, une histoire d'emprise, mais en 1953, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, 70 ans avant le film de Donzelli, mais c'est tout à fait ça, un type qui met son épouse sous emprise totale, qui l'enferme, qui l'empêche de sortir, qui veut contrôler le moindre de ses allées et venues, avec une dimension qui n'est pas chez Donzelli, mais qui est chez Buñuel, c'est qu'il y a une dimension religieuse, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent autour de l'église, et ça c'est un peu propre à toute une partie du cinéma de Buñuel. Donc ce film-là est vraiment, moi, je l'ai découvert il y a 3 ans, 4 ans, c'est absolument captivant, c'est visuellement magnifique, la copie est très très belle, vraiment, et puis c'est une modernité incroyable, à la fois par la forme et par la thématique, enfin on se dit, ce type-là au Mexique en 53, il fait un film qui est aujourd'hui, mais hyper, hyper, hyper d'actualité, quoi. Et puis le film, il y a plein de bonus, il y a tout un entretien avec Guillermo del Toro qui parle de son amour pour Buñuel et pour ce film. Il y a tout un portrait autour de Buñuel et puis son importance dans le cinéma. Donc je recommande chaudement Elle de Luis Buñuel.
Merci Jean-Pierre.
Vous êtes François Léo?
Alors vous êtes physionomiste, hein? Paf, on en prend identifié, là.
Ah, j'ai vu tout au film à la Cinémathèque.
Vous avez vu mes films? Oui, pas moi, je les ai jamais vus, alors. Et ceux des autres non plus, d'ailleurs. Je ne comprends pas comment les gens peuvent me prendre pour un créateur, alors je fais toujours n'importe quoi. Moralité, d'ailleurs. Il vaut mieux faire un film incompréhensible et plaire que le contraire. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Nous continuons notre petite balade dans la convention cinéphile et nous sommes en compagnie de Thomas Révoy, l'auteur de La Dimension Walter Hill, qui est sorti chez Rouge Profond et qui a lui choisi un Blu-ray édité par Carlotta.
Oui, absolument, Étienne. J'ai choisi La Vengeance de la Sirène, qui est un film de Ikeda, qui est un film de 84 que j'ai adoré découvrir, que j'ai découvert grâce à la restauration et à la ressortie en salle et en Blu-ray chez Carlotta Film. C'est un film qui m'intéresse parce que c'est un film à la fois féministe dans son traitement, c'est un film sur c'est un film c'est un déchaînement de violence, je pense qu'il faut le dire. Les 40 dernières minutes de La Vengeance de la Sirène, c'est du Peckinpah puissance 10 sur une femme qui se venge de la mort de son mari par une compagnie... par une entreprise qui fait un business, on va dire, anti-écologique sur son île japonaise et qui décide de prendre les devants et de se venger. C'est un film qui est assez marquant dans sa mise en scène, c'est un film qui est brut, c'est un film qui est inattendu, avec des scènes assez choquantes, un personnage principal très très fort, très bien caractérisé. Ça a été une énorme découverte pour moi résultat, j'ai découvert un auteur, en fait, qui est aussi connu pour son film d'horreur Evil Dead Trap, qui est trouvable chez Le Chat qui Fume. Et Carlotta Film a sorti un autre film de Ikeda qui s'appelle Parfum d'un sortilège, que je n'ai pas encore vu, mais qui, je crois, est croisé à... Je crois que c'est un petit peu une romance aussi, un film avec des touches d'érotisme. Mais là, je parle un petit peu à l'aveugle, donc à vérifier. Mais évidemment, je vais me jeter dessus et le découvrir. Donc voilà, La Vengeance de la Sirène, un film inattendu, surprenant, féministe, déjà en 1984 au Japon. Très beau, visuellement très très puissant et avec des images qui se colle à la rétine, quoi, qui ne bouge plus. Une fois que tu l'as vu, ça reste. Les images qui t'accompagnent, quoi. Et ça, c'est rare et c'est quelque chose que je cherche et qui me plaît dans le cinéma. Voilà.
Merci Thomas, belle transversale en plus. Plusieurs éditeurs d'un coup. Merci beaucoup.
Comme le dit le jeune John Moon dans le beau, le magnifique Moonfleet de mon vieux parano de Fritz Lang, l'exercice a été profitable, monsieur.
Et oui, nous arrivons malheureusement au terme de cette convention cinéphile qui s'est tenue au cinéma Arvor ce dimanche 26 avril 2026. Je suis toujours en compagnie de Étienne Caloret et de Antonin Moreau.
Bonjour Thomas, rebonjour.
Bon, ça fait 15 fois que tu dis oui, bonjour. Voilà.
Non mais et quand même, on va reciter 97 mm qui organise tout ça. Et puis un gros merci quand même à tous les participants et tous les exposants, que ce soit les éditeurs ou les éditeurs.
Ou les auteurs, ou les particuliers.
Ou les particuliers.
Les vendeurs, voilà, hein, qui sont tous venus animer cette belle soirée, les projections.
Il
voilà.
faisait beau, les gens étaient contents. Exactement. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de conversations très intéressantes.
Voilà, de haute volée.
Sur des films très différents, on Exactement. A pu le remarquer avec les entretiens qu'on a pu faire auprès des intervenants, justement. Quand même un large choix. Il y en a pour tous les goûts.
Exactement, hein. Et c'est cette variété des mondes cinéphiliques et cinéphagiques qui montre à quel point le cinéma est encore vivant.
Et le lien dans tout ça, c'est quoi? C'est la qualité.
Exactement.
La qualité.
Le lien, c'est l'humain, j'aimerais bien.
L'homme.
Le cinéma, c'est avant tout des rencontres.
Et puis, quand même, le pognon. Hein,
Exactement,
puisque,
c'est ça. Des gens ici.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent aujourd'hui hein, dans des objets. Même si c'était vendu avec une belle ristourne, eh ben, y en a pour le porte-monnaie. Et à côté de ça, forcément, l'argent, eh ben, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Ça ruisselle.
Il va dans la poche, hein, et bien évidemment, de gens qui en ont besoin pour continuer à faire leur travail aussi exigeant. C'est ce sur quoi on a essayé de revenir quand même aujourd'hui. Hein. Ça demande de la passion. Il y a beaucoup de gens ici, même parmi les exploitants, qui quand même ne vivent pas hein, de leur travail d'exploitant.
Ils sont obligés d'avoir un autre métier, un vrai métier, entre guillemets.
Un vrai métier à côté pour pouvoir continuer à proposer des beaux objets, des objets de niche quand même, qui vont. Voilà. Et heureusement qu'il y a des événements comme celui d'aujourd'hui pour mettre en avant aussi ce travail et se faire rencontrer les gens. Et je pense que tout le monde était très content. Et ça se voit sur le visage des gens. C'est bon, ils sont contents.
Exactement.
Ils sont heureux d'être
et
là.
Nous vous rappelons que donc, comme cette émission est mutualisée, si vous écoutez en ce moment Le cinéma est mort, l'autre partie de l'émission est à retrouver dans En attendant Godard. Et si vous écoutez En attendant Godard, la deuxième partie ou la première est à retrouver sur Le cinéma est mort.
C'est beau. Et ça, c'est une preuve d'amitié.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Hein.
Comme quoi, la paix entre deux nations qui s'affrontent est possible. Voilà. Toute relation avec des événements passés ou présents n'est pas du tout fortuit, mais néanmoins, nous voulions aussi faire passer par cette émission un message.
Voilà, et on ne parle pas de collaboration,
pas du tout.
On parle d'amitié. Hein,
exactement, d'entente. Voilà,
d'entente entre deux entités qui normalement ne peuvent pas s'entendre.
Et qui pourtant, malgré tout, malgré les obstacles, les blessures et les faiblesses, arrivent à se surmonter.
C'était voilà. Jean-Jacques Goldman, là.
Non, c'est Natacha Saint-Pierre.
Ah oui, on n'était pas loin quand même.
Voilà.
En tout cas, merci. Merci Thomas.
Merci Étienne. Merci Antoine. Antonin, c'est ça?
Antonin, oui.
J'ai rien de plus à ajouter par rapport à vos grands discours de paix. Donc voilà, merci à vous. Voilà.
Merci de reconnaître notre.
Merci En attendant Godard. Merci Le cinéma est mort. Merci les cinéphiles et les exploitants. Et on se retrouve l'année prochaine au même endroit.
Évidemment, avec encore plus de monde, plus d'exposants et plus d'argent à dépenser.
Et il paraît que James Cameron sera présent l'année prochaine.
En fait, je voulais juste dire, tu as dit les exploitants, mais c'est les éditeurs. Hein.
Ah oui, j'ai
les
dit exploitants.
Parce que les exploitants, ils n'ont pas de problème
non,
d'argent.
Les exploitants, bah,
ils gagnent très bien leur vie.
Ouais, on connaît.
Sur les comptes du CNC et tout ça, on est payé des milliards. Et tout ça, on n'a pas besoin d'aide. Il n'y a pas de problème.
Ouais. Avec toutes les taxes que vous prenez, là,
des milliards hein, de
tous les impôts.
Des milliards
touchez.
De francs nouveaux, attention. Hein.
Vie sur vos impôts, voilà. Évidemment, comme chacun sait, comme le RN s'échine à le dire, à clamer à l'Assemblée, on vit sur vos impôts, donc ça va très très bien.
Très bien, merci beaucoup pour cette belle prise de parole, Antonin, exploitant de cinéma.
Voilà. C'était lui.
À
merci
ciao,
à
bonsoir.
Vous, à très bientôt, ciao.
Arrêtez s'il vous plaît avec cet étalage de culture flasque, on n'en peut plus.